après cette séance intense ce matin, je le sais, a suscité pas mal d'interrogations, de questions qu'on va reprendre là. Donc on a une table ronde avec Hélène Boulanger, pour France Université et présidente de l'Université de Lorraine. Régis Brandinelli, qui est le DGS de l'Université Côte d'Azur, qu'on a sollicité parce que c'est une université, un EPE avec des écoles privées. Et puis bon, il a un parcours aussi qui lui donne une vision complémentaire de ces aspects-là. Nous attendons Anne-Sophie Barthez, hein, qui est actuellement, d'après les infos de dernière minute d'Hélène Boulanger, à France Université, mais qui va venir, qui nous l'a confirmé. Alors, je vais excuser Olivier Grégoire, le directeur général des services du département de la Mayenne, parce que il était là, je l'ai eu longuement hier, on a discuté, j'ai des notes assez complètes, et ce matin, il était atteint du Covid, tout simplement, alité. Et donc c'est moi qui vais représenter le département de la Mayenne. Il m'a donné des informations. Alors je vais essayer de retranscrire positivement, fidèlement ce qu'il m'a dit. Mais c'est intéressant en fait. Pour tout dire, j'ai connu Olivier Grégoire en Charente où il a implanté. Non seulement il y avait l'antenne de l'université de Poitiers, mais des tas d'écoles autour de l'image, de la vidéo et de la BD. Hein. Pour tout dire, donc il s'est un peu exercé à l'implantation d'écoles privées avec son directeur de l'éducation de l'époque, et il a reproduit le même schéma en Mayenne, dont la préfecture est Laval, je le répète, hein, je le rappelle plutôt. Et donc je reviendrai un peu sur des chiffres, sur des problématiques qui sont celles d'une collectivité locale comme un département par rapport à l'offre du privé. Donc voilà. Donc pour commencer, Valérie, tu veux dire quelques mots d'abord ?
Non, juste dire que j'ai circulé un petit peu autour. Là, j'ai l'impression que ce matin, ça a répondu à la commande. Donc merci. C'était assez instructif et d'un ton de bonne tenue et de bonne qualité dans les échanges. Et je pense que ça a suscité pas mal de questionnements pour vous, d'interrogations. Donc je me réjouis d'avoir la représentante de France Université avec nous, parce que c'est un sujet majeur aussi, je pense, pour les présidents et les présidentes d'université. Donc avoir ce retour-là, nous avions un président d'université à la tribune ce matin, mais voilà, sur un secteur déjà particulièrement concerné par le sujet, donc d'avoir la vision d'une grande université pluridisciplinaire de recherche sur ces sujets-là me paraît extrêmement important. Et puis cet après-midi, effectivement, on voulait aussi avoir la vision de quelqu'un qui met en œuvre ces politiques. Donc je crois que ça, c'est important aussi pour vous, parce que on est quand même très concernés dans nos établissements, de près ou de loin, où on le sera un jour, sur ces sujets. Hein. Voilà. Donc,
on a beaucoup parlé de transparence, d'agilité, de réactivité ce matin. Donc ça, on aura l'occasion avec Régis Brandinelli d'y revenir. Mais moi, ma première question, Hélène Boulanger, bon, Stéphane Brinconnier a développé toute une série d'arguments ce matin. On a l'impression, mais est-ce que c'est partagé, que la collaboration avec le privé n'est pas un tabou en soi, n'est plus un tabou dans les universités? À certaines conditions. En tout cas, l'exemple de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, avec une école d'ingénieurs et deux écoles dans l'univers des médias et du journalisme associatif privé, montrait qu'il y avait une ouverture qui était impensable il y a encore quelques années. Alors, voilà, un peu un regard. Est-ce que c'est particulier à quelques universités, ou est-ce qu'aujourd'hui le pragmatisme l'emporte par rapport à des a priori qui pouvaient exister ?
Alors, je suis un peu trop jeune pour répondre à la question « est-ce que ça a changé ?» Non, mais sérieusement, en fait, hein, voilà, je m'occupe de sujets relatifs à la politique des établissements depuis quelques années seulement, donc je n'ai pas le recul nécessaire pour apprécier une transformation des postures des universités ou pas précédemment. En revanche, alors moi, je ne parlerai pas de pragmatisme, je parlerai d'opportunité, de recherche de la qualité dans la réalisation des missions. Qu'il s'agisse d'opérateurs privés ou publics, pour France Université, l'important, c'est la qualité de ce qui est proposé aux étudiants in fine. Voilà. Ce n'est pas le privé en tant que tel qui nous interroge aujourd'hui, c'est peut-être une partie des opérateurs privés qui proposent des services ou qui commercialisent des services, plus exactement, en utilisant des références qu'on peut considérer comme relevant de la publicité mensongère. En fait, voilà, ce qui nous pose de réelles difficultés, c'est cela. Ça ne me répond pas totalement à votre question,
mais
je pense, parce que...
Parce qu'on a, dans l'histoire, là, c'est pour rappeler, il y a eu souvent des collaborations d'un diplôme, d'un master, d'une licence avec des établissements privés. Ça fait longtemps que, dans le cadre de l'autonomie des composantes, on va dire, ça se pratiquait. Et là, vraiment, on est passé avec les EPE, notamment, à une échelle au-dessus, quoi. Il y a une forme d'institutionnalisation de la coopération. Là, il y avait eu un événement, alors parce que maintenant je suis un vieux de la vieille, évidemment, mais il y a quelques années, à Nantes, à l'Université de Nantes, avec une école de la Chambre de commerce qui avait été intégrée à l'Université de Nantes. C'était déjà une première. Mais on sent que là, il y a une dynamique autour des EPE de collaboration plus institutionnelle avec les écoles privées, en général à but non lucratif, hein, sauf exception.
Alors c'est effectivement avec le secteur privé à but non lucratif que nous avons l'essentiel, pour ne pas dire l'intégralité de nos coopérations, hein, bien évidemment. Une nouvelle fois, enfin, moi je dis souvent, peu importe qui le fait, pourvu qu'à la fin ça soit fait, et on peut trouver des coopérations, des formes de co-travail, c'est chacun son métier, on ne fait pas la même chose en général, pas de la même manière. Donc comment on construit des coopérations qui permettent permettent que chacun en fait assure ses missions et ses services de la meilleure manière possible. Voilà, sans a priori, sans dogmatisme au départ, et en ayant simplement à l'esprit que derrière les services que l'on propose aux étudiants, il faut que la qualité soit en rendez-vous une nouvelle fois, parce que pour moi, le cœur du problème, le cœur de la question se situe ici. Il y a ensuite la question du privé par rapport au public ou la manière dont ça existe en France qu'on peut développer par ailleurs. Mais pour moi, la première question centrale, c'est la qualité des formations qui sont proposées aux étudiants. Ensuite, on a des formations qui sont de nature ou d'inspiration différente. Ça, c'est encore un autre sujet.
Et ce matin, ça a été évoqué autour de l'apprentissage. Est-ce qu'il y a la persistance du sentiment d'une inégalité flagrante entre un apprentissage débridé, un financement de l'apprentissage, je mets des guillemets, hein, parce que le débat a montré que c'était un peu complexe ce matin, débridé pour l'enseignement supérieur privé qui en profite, quel qu'il soit, et des universités qui seraient un peu plus bridées sur ces sujets-là, notamment dans le cycle L, si j'ai bien entendu ce qui a été dit sur l'apprentissage.
Alors, il est juste que quand on appréhende la question de l'insertion des demandes du marché de l'emploi avec une vision assez adéquationniste et immédiate, les universités sont probablement confrontées à un réseau de contraintes, voilà, ne serait-ce que pour ouvrir une nouvelle mention ou installer un nouveau parcours ou voilà, tous les processus de validation, de construction de la proposition. En général, mettent pas mal de temps. C'est-à-dire qu'on a en face de nous, effectivement, des opérateurs privés qui vont aller se positionner avec plus de rapidité sur un certain nombre de demandes immédiates du marché du travail. Est-ce à vous dire que je souhaite qu'on aille plus vite, en fait, sur les processus de validation? Je ne suis pas certaine, parce que je pense que la fonction des universités n'est pas forcément d'entrer dans cette logique adéquationniste bille en tête. Je me souviens d'un directeur d'école qui me racontait l'histoire d'une demande d'industriel de former des ingénieurs de tel type là tout de suite, là maintenant. Il commence à réfléchir, à construire l'offre de formation, et 8 mois après, le secteur s'effondre économiquement. Il n'y a plus de besoin. C'est-à-dire que nous, dans le travail que l'on produit, entre le moment où on dit on va prendre telle orientation dans la formation et le moment où nos étudiants sortent avec ces éléments-là dans leurs compétences, il s'écoule plusieurs années. Et la vision adéquationniste, typiquement, c'est ce qui amène aux déserts médicaux aujourd'hui. Si on n'a plus de médecins aujourd'hui dans les campagnes, ou à d'autres endroits, c'est parce qu'on a eu une logique adéquationniste dans l'appréhension de l'offre de formation. Donc, à mon sens, les universités, investies de leur mission de service public, ont aussi une responsabilité à prendre le risque de faire un pas de côté avec cette, par rapport à cette logique adéquationniste et à assurer le rôle qui est le leur.
Est-ce que ça ne crée pas une tension avec une partie de la population, des familles, sur l'aspect justement insertion professionnelle, à tort ou à raison, où l'image de l'université reste brouillée, quels que soient ses progrès et ses efforts, et qui pourrait expliquer cette croissance, je ne voudrais pas dire exponentielle, mais quand même importante, du prix de l'enseignement supérieur privé, qui répond à des besoins exprimés par les familles et les jeunes.
Voilà, il y a un certain nombre d'erreurs dans les choix qui sont opérés par les étudiants, et ces erreurs peuvent s'appuyer une nouvelle fois sur des éléments qui relèvent pour moi de la fraude ou de la publicité mensongère. Voilà. Ces éléments étant mis à part, oui, bien évidemment, le contexte que l'on connaît aujourd'hui, la dégradation de la situation au niveau international, parce que ça compte aussi, l'accentuation de la précarité des jeunes, parce qu'on dit toujours, vous savez, je ne vais pas vous faire la parole de celle qui a longuement vécu, puisque je vous ai rappelé tout à l'heure, j'étais toute jeune.
Et que moi, j'étais plus ancien, oui.
C'est ça. Je ne vais pas vous faire le discours du type de mon temps, c'était déjà compliqué. Oui, c'était effectivement compliqué de mon temps, mais c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Et on est dans ce contexte qui génère une forme d'insécurité pour les familles, pour les jeunes. Et il est, à mon sens, assez compréhensible qu'il y ait une forme de recherche de sécurisation dans le parcours de formation. Et dans cette recherche de sécurisation, on rentre aussi dans une dimension qui relève plus du commercial, de la logique de prix, aussi c'est de la valeur associée ou de la qualité de la sécurité associée au prix que l'on va payer pour sa formation. Et nous sommes dans un système qui favorise cela, et un système de référence qui est construit par la société, par le discours politique, et qui est peut-être aussi alimenté par la difficulté des universités à expliquer la fonction qui est la leur. Cela étant, même si on explique cette fonction particulière qui est celle des universités, ce que nous allons expliquer, c'est par la variété, la richesse, la largeur du champ des possibles couvre les universités, finalement, choisir l'université, c'est un petit peu choisir l'aventure. Choisir l'aventure dans le sens où c'est largement ouvert. Il y a tout un tas de dispositifs de passerelles, de réorientation qui permettent qu'on commence à un bout sa formation et qu'on sorte à un autre bout qui n'est pas forcément en rapport avec le bout par lequel on est rentré au départ. C'est une aventure, c'est l'ouverture d'un champ de possible qui est pratiquement infini. Et c'est accepté finalement, c'est le choix de l'aventure quand on choisit l'université d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Est-ce que ça veut dire que donc il y a 75%, enfin, parce que dans le public, ce n'est pas que l'université, mais on va dire une grande partie qui fait le choix de l'aventure, qu'il y a une autre partie des publics et des familles qui choisissent une forme de sécurité en allant dans le privé. C'est un peu ça, si je traduis.
De manière assez caricaturale, oui. Puis après, on pourrait commenter le choix du terme « choix », presque avec une approche philosophique jusqu'à l'infini, chaque choix étant un renoncement, etc. etc. Enfin, bon, je ne vais pas m'aventurer dans cette direction-là. Mais il y a pour moi une réalité, c'est dans ce que nous avons à proposer, qui est finalement, nous proposons l'aventure de la connaissance avec des parcours d'une richesse et avec un champ des possible quasiment infini, on a des propositions commerciales en face qui sont des propositions commerciales avec des objets plus fermés, plus réduits, plus sûrs, plus maîtrisables, plus voilà. Et quand on ajoute à ça les représentations qui circulent en France sur les universités, qui correspondent à une vision de l'université qui pour moi, alors là pour le coup je n'ai jamais connu, mais vraiment jamais.
C'est mais qui persiste quand même, une vision. Les transformations de l'université sont assez peu perçues dans l'opinion publique. Enfin, on a l'impression quand même. Alors, oui. Régis Brandinelli, qui ne vient pas tout à fait de ce secteur, pourrait nous donner lui sa première perception, parce qu'il a eu un rapport d'étonnement, j'imagine, en prenant ses fonctions.
Alors, le rapport d'étonnement est passé. Merci beaucoup de m'inviter. de m'avoir invité. Effectivement, j'ai eu un rapport d'étonnement. Il faut que je, du coup, j'explique un peu d'où je viens. Donc, en deux mots, en général, je ne le fais jamais, mais au moins, là, c'est clair. Donc, moi, je suis un pur produit, classe préparatoire, grande école, école de management, école d'ingénieur. J'ai commencé, comme beaucoup de gens, par me laisser aspirer par les opportunités. Et j'ai commencé par je pense, le plus à l'opposé du service public. J'ai travaillé dans la finance de marché 2 ans avant de me rendre compte que ça ne me plaisait pas du tout de jouer à la Game Boy. Ensuite, j'ai travaillé 6 ans dans l'industrie chez IBM. Et là, je me suis dit que ça ne me plaisait pas du tout de travailler pour des fonds de pension, alors que le métier me plaisait beaucoup, mais ça ne m'intéressait pas. Et donc, j'ai découvert mon intérêt pour l'éducation et pour le service public au fur et à mesure. J'ai été ensuite directeur général exécutif de Schema, où j'ai fait la fusion entre le CERAM et le SC Lille pendant 7 ans, où j'ai découvert le monde des établissements consulaires, des écoles de management, des structures privées, puisqu'on a créé une structure privée, c'était une association à 1900, mais enfin, ça reste une structure privée, avec des problématiques de chiffre d'affaires, de rentabilité aussi, mais pas au sens pour gagner de l'argent pour des actionnaires, mais pour faire fonctionner un système qui rendait un service aux jeunes. Et ensuite, j'ai pris la direction générale d'un gros groupe scolaire qui va de la maternelle aux classes préparatoires dans les Alpes-Maritimes, Stanislas Kahn, pour ceux qui le connaissent, presque 3500 élèves et presque 600 prépas. Et donc, j'ai découvert le cycle de vie d'un jeune, de la maternelle jusqu'au doctorat, puisque ensuite, le président de l'Université Côte d'Azur m'a contacté, on se connaissait évidemment, hein, et il m'a dit, mais en fait, tu es de plus en plus piqué par le secteur public, tu t'en rapproches, je ne sais pas quelle va être la prochaine étape, mais est-ce que ça ne t'intéresse pas de venir travailler avec nous, puisque tu as une compétence pédagogique, recherche et administrative, et j'aimerais bien avoir un DGS qui m'aide à comprendre, puisqu'il y a une grosse transformation à l'Université Côte d'Azur. Et sincèrement, ça a duré une nanoseconde, et je suis très heureux d'être dans la fonction publique, je pense que j'étais fait pour ça dès le départ. Mais j'ai découvert aussi des différences, et je pense qu'on n'a pas à se flageller tous les jours, on a beaucoup d'avantages. Simplement, on ne voit que les inconvénients, du matin au soir. Pour moi, aujourd'hui, on a une transformation qui est réelle. Les universités, je ne parle pas que d'Université Côte d'Azur, même si on s'est beaucoup transformé, mais on a toutes les universités que je découvre, que je rencontre, ou les écoles, en tout cas le secteur public se transforme énormément, avec une vraie orientation vers un service orienté autour de l'usager, de l'étudiant. On fait beaucoup de choses. Les à côté, ce que j'appelle l'extra-académique, est extrêmement fort aujourd'hui. Hein, tout ce qu'on fait sur le sport, sur la santé, sur l'accompagnement au logement, on n'a pas à rougir. Je ne suis pas certain que tout le monde fasse la même chose. Et la concurrence, on en parlait tout à l'heure, ce matin, pour moi, elle est multiple. Hein, la caractériser par le secteur public ou le secteur privé, je pense que ce serait très réducteur. Il y a du secteur privé qui, pour moi, est du secteur public, hein, en tout cas, qui a une délégation de services publics. Dans l'éducation nationale, par exemple, l'enseignement privé sous contrat, ben c'est régulé, hein. On n'a pas de soucis, on a des soucis plutôt avec la partie, après on peut discuter de qui forme qui, ça dépend, les endroits où c'est plutôt l'élite, les endroits où c'est plutôt la campagne, mais en tout cas c'est des petits combats qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui ne changent pas grand chose, mais c'est régulé. Et dans l'enseignement supérieur, l'État n'a pas pris l'intégralité du marché, à la différence de l'éducation nationale. Et donc là, ben, moi quand on dit qu'on essaie de réguler, pour moi aujourd'hui c'est le Far West complet. Et le pire étant, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais dans le groupe scolaire à aider les jeunes à s'orienter. Nos enfants, ils savent s'orienter. En fait, c'est nous qui le faisons. Donc ils s'en sortent. Hein. Tous les enfants des gens qui sont ici, dont moi, hein, je pense qu'ils n'auront pas de problème d'orientation. Par contre, les familles les plus modestes, c'est l'argent n'étant pas du tout le sujet, ils sont prêts à se couper 2 jambes et 2 bras pour pouvoir faire que leur gamin arrive à faire des formations qui sont bonnes, eux, ils sont complètement perdus. Je me souviens très bien des discussions sur les bachelors et sur... c'est incompréhensible pour des gens qui ne comprennent pas le marché, parce que c'est un bachelor. Moi, je dis toujours, alors ça fait rire tout le monde, je dis à mes élèves de première et de terminale, si vous achetez une Porsche au prix d'une Porsche, bah, si ça vous plaît une Porsche, achetez une Porsche. Si vous achetez une Dacia au prix d'une Porsche, vous êtes fait avoir. Et c'est un peu le problème des marques, hein, c'est-à-dire que moi, je reste convaincu, pour avoir fait la fusion CERAM et CELI qui a créé Schema, que la marque, c'est dur à entendre pour nous tous hein, de ce secteur, mais la marque, c'est au moins 50% de la valeur d'un établissement. Si on veut acheter une voiture, on monte dans une voiture, on passe 1 heure, on monte dans une autre voiture, on la compare et on choisit.
Si je comprends bien, les universités vendent des Porsche au prix des Dacia, en fait, c'est ça.
C'est pas du tout ce que j'ai dit.
C'est pas ça.
Au contraire.
Bah, le débat est relancé. Hein, là.
Je pense qu'on vend des Dacia au prix des Porsche.
D'accord.
On vend des Porsche au prix des Dacia, je veux dire. C'est ça. Oui, c'est ce que je veux dire. Ah, pardon, j'avais pas compris.
Oui, c'est ça.
Ah oui, exactement. C'est un problème de valeur. Excusez-moi, oui. Oui, tout à fait. Et pour moi, je suis un peu dur, hein, mais je vous donne mon avis, puisqu'on est là pour parler librement. Oui. Je trouve que dans beaucoup de bachelors, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on achète la marque de la, la marque mère, mais avec un programme qui, d'un point de vue étudiant et d'un point de vue qualité d'enseignement, est discutable. Donc moi, je demande qu'une chose, c'est qu'il y ait une régulation là-dessus. Après, sur la régulation, je ferai mon rapport d'étonnement un peu plus tard. Je trouve ça très bien et j'ai découvert la différence de pilotage et de management entre ce que j'ai connu dans le privé ou le semi-privé et le public. On a un pilotage qui est sous une tutelle. Moi, je trouve ça très bien, c'est intéressant, ça permet de rencontrer les collègues et ça permet de rencontrer un ministère. Mais je pense que tous les territoires, toutes les stratégies dépendent des territoires. Je suis sûr qu'en Lorraine, par rapport à la Côte d'Azur, l'enjeu d'installation d'établissements privés, la population, les CSP, enfin, tout ça est différent. Et je pense que ce serait de bon ton que les universités soient les pilotes de la stratégie territoriale d'enseignement supérieur. En lien avec, bien sûr, en lien avec la tutelle. Mais je ne vois pas l'État capable de décider et je ne vois pas les collectivités capables de décider quelle est la bonne stratégie pour l'enseignement supérieur sur le territoire. Et le résultat, alors nous on le fait aujourd'hui, et moi j'ai la chance d'avoir un président, et je le dis parce que un des problèmes que j'ai découvert dans la gouvernance des établissements comme les universités, c'est que soit ça se passe merveilleusement bien entre le DGS et le président et l'équipe de gouvernance, et là ça peut tourner très fort, et c'est mon cas, et tous les jours je suis heureux de ça. Soit ce n'est pas le cas, et là, ça peut vite tourner pas du tout. Donc, alors que dans une structure privée, il y a un patron, et puis l'histoire est réglée. Quoi. Donc, ça change quand même beaucoup de choses, un patron ou une patronne d'ailleurs, mais ça change beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, par exemple, sur notre territoire, on a des établissements qui s'installent, et le choix du président, que moi, j'admets totalement, et puis de toute façon, c'est son choix, mais je vais totalement dans son sens, qui est de dire, il vaut mieux qu'on soit au milieu de l'équation, et qu'on les accompagne, plutôt que d'être en dehors et de subir. Mais l'idéal, ce serait que ce soit au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on nous questionne, qu'on nous demande d'instruire, qu'on nous demande de vérifier si... Mais ça vaut pour l'établissement public aussi, hein, si on n'est pas en train de créer une concurrence sans intérêt ou une complémentarité positive. Et donc le rôle, pour moi, de l'enseignement supérieur...
Ça veut dire que les rectorats ne sont pas capables de réguler ça?
Les rectorats, pour avoir travaillé de ce côté-là, hein, les rectorats, ils sont tout à fait capables de faire beaucoup de choses, mais l'enseignement supérieur, c'est, pour moi, c'est une compétence de l'université en termes de connaissances de marché. Et ils nous aident, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire avec le rectorat, mais il me semble que l'université est assez compétente sur le sujet, il me semble. Et que, en tout cas, si on veut être clair, moi je suis exactement ce que vous avez dit tout à l'heure en termes de mensonges pour les familles, et ça concerne surtout les familles qui ont le moins d'argent. C'est celles-là qu'il faut aider en particulier. Et donc pour éviter ça, il faut qu'il y ait une parole qui soit une parole de validation, une parole qui soit écoutée, et on peut dire ce qu'on veut sur l'université, mais les universitaires sont écoutés. On sait qu'ils sont libres, donc ils sont écoutés. Sur cette parole, moi, je suis sûr que par rapport aux familles, on serait écoutés de manière très importante si on donnait un avis juste, un avis éclairé pour que les familles puissent se dire « Est-ce que j'ai le choix ?» Et puis, on a un rôle de formation au prix de l'éducation nationale et des chefs d'établissement, parce que je pense qu'ils sont paumés, eux aussi, hein, ils ne comprennent plus rien. Et orienter les jeunes, ce n'est pas parce que vous mettez deux profs principaux en terminale...
Est-ce qu'ils ont compris la différence entre grade de licence et bachelor?
Enfin, nous, je suis sûr que dans nos communautés, on pose la question. Je ne suis pas convaincu que tout le monde comprenne. Vous imaginez, chez des enseignants du secondaire qui ont bien d'autres sujets, chez des chefs d'établissement qui ont bien d'autres sujets, bon, il y a un vrai travail de fond pour clarifier la communication et simplifier les choses. Et sur le territoire, je pense que les universités sont reconnues pour être des acteurs libres qui peuvent dire des choses intéressantes aux familles et éclairer les choix. Après, chacun fait son choix. On en revenait tout à l'heure à ça, hein. C'est un marché. Donc les parents font comme ils veulent. À partir du moment, moi, si certains me disaient je vais en bachelor là, je leur disais moi, à partir du moment où je vous ai donné toutes les informations, c'est votre choix. Mais il faut leur proposer aussi des solutions alternatives et il faut que nous, on soit bons dans l'alignement. Et dans, vous parliez tout à l'heure de parcours sécurisé. Moi, un des sujets, quand je suis arrivé, quand j'étais côté grande école, je me disais si demain les universités se mettent à être trans et interdisciplinaires, les grandes écoles sont mortes. En tout cas, elles vont avoir un désavantage concurrentiel fort parce qu'elles font des partenariats, mais elles sont monodisciplinaires, ou en tout cas monocomposantes. Eh bien, il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Il faut qu'on travaille avec les grandes écoles, bien sûr, mais il faut que nous, entre nos composantes, on arrive à faire des formations qui disent aux jeunes, tu rentres en première année, selon des critères académiques, tu es sûr, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, que tu auras plein d'opportunités pour arriver jusqu'au master. Et cette clarté dans la communication, on ne l'a pas toujours.
Mais est-ce que cette convergence se fait dans l'EPE à Nice, avec, j'ai vu récemment le conservatoire de danse, enfin j'ai plus le nom en tête, hein, mais des choses qu'on ne voyait pas autour des universités, enfin en France en tout cas. Oui. Est-ce que ça, l'offre de privé, elle intègre peu à peu l'université sur la Côte d'Azur ? C'est vraiment une question...
Oui, alors, sincèrement, les privés qu'on a, on a, comme beaucoup d'entre vous, des établissements composantes, des établissements associés. Donc, les établissements composantes, ce sont nos collègues, nos cousins germains, qui sont sur le territoire et qui apportent une compétence qu'on n'a pas. Alors, certains ont des statuts, ce qu'on appelle privés, mais enfin, objectivement, c'est du privé très, très peu lucratif, hein, puisque là, on parle de gens qui font... du service public avec un statut, parce qu'il n'existe pas d'établissement public qui le font sur le territoire. Mais si on prend Rosalie Hightower, qui est l'École nationale supérieure de danse, bon, c'est du public. Si on prend la Villa Arson, qui s'occupe de faire tout ce qui est art créatif, etc., oui, c'est du privé, parce que c'est une association loi 1901, mais là aussi, on est sur des gens qui ont le service public collé au corps. Hein. Donc globalement, nos établissements composantes, juridiquement, ils sont privés. En termes d'ambition collective, on est dans le service public pur et dur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous avez des gens qui sont associations loi 1901 et qui sont aussi publics, autant publics que peuvent l'être des établissements qui sont des établissements publics. Donc aujourd'hui, on a, c'est vrai aussi pour les organismes de recherche, on a rapproché tout ça. Et sous l'impulsion du président qui a dit, moi je préfère qu'on soit partie prenante de ce qui se passe sur le territoire plutôt que de le subir et de faire que les gens s'installent de manière complètement... désordonné, et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une dynamique qui est très intéressante et en plus de rajouter des cordes à notre arc que nous n'avons pas, donc que nous n'avions pas. Et ça marche plutôt bien.
Hélène Boulanger, un peu sur cette question de, aussi qui est revenue très souvent ce matin, d'agilité du service public versus l'agilité du secteur privé, non seulement sur le montage de formation, mais sur la gestion en général. Vous constatez des progrès ou toujours ces pesanteurs, c'est revenu hein, ce matin, de la tutelle, plutôt la tutelle du ministère que des rectorats. D'ailleurs, ça a été moins abordé au niveau des rectorats. Peut-être qu'ils sont un peu inexistants aussi, j'en sais rien. Comment vous voyez l'évolution justement sur l'agilité, la capacité à réagir ? Est-ce que ça progresse dans les universités ? Sur l'offre de formation, sur par rapport aux besoins des familles, hein, vous évoquez les ingénieurs, mais les besoins du marché du travail, mais les besoins en général des familles.
Alors, je sais que c'est souvent méconnu, mais c'est pas méconnu par le public qui est dans cette salle-là normalement. Il y a quand même tout un processus d'évaluation, d'auto-évaluation, d'évolution en fait en permanence de l'offre de formation des établissements, alors qui est un peu dissimulé par le fait qu'on a des nomenclatures nationales. Et c'est un petit peu paradoxal quand même le fait d'avoir ces nomenclatures nationales un peu contraignantes finalement, qui ne rendent pas forcément très lisibles toutes les évolutions qui se passent à l'intérieur des formations, mais elles sont réelles. Ensuite, les universitaires appréhendent ces questions-là sans entrer dans un jeu qui est celui de l'adaptabilité immédiate où on ne peut pas taxer les universités de céder à des modes dont on pourrait soupçonner qu'elles n'aient pas un caractère forcément très durable. Donc les transformations sont réelles, mais elles s'installent dans une durée, dans une temporalité qui leur donne une assise et qui, à mon sens, rendent un peu plus solides, fortes, les évolutions qui sont réalisées. Mais la transformation, elle est bien là. Si maintenant vous demandez aux universités de se mettre à courir à U et à DIA et à sauter sur toutes les opportunités qui passent sans tenir compte de leur stratégie propre... uniquement pour des questions de rentabilité ou de demande ou d'expression d'un besoin dont on ne connaît pas la viabilité dans le temps, a priori, ma réponse est plutôt non. On nous demande, et nous le faisons très volontiers, de construire des stratégies et l'orientation de l'activité de nos établissements s'établit suivant ces stratégies-là.
Et il y a une injonction des pouvoirs publics qu'a exprimé Emmanuel Macron récemment sur les formations qui devraient répondre à ça. Je prends un exemple d'un secteur qui est le nucléaire. Il va y avoir des besoins de formation, ça c'est clair. Pas seulement d'ingénierie d'ailleurs, hein, de techniciens. Enfin, Gérard Pignon pourrait répondre mieux que moi sur ce sujet. Mais ce n'est pas illégitime que les pouvoirs publics demandent à un moment donné au service public de mettre en place des initiatives et s'il ne le fait pas, de se tourner vers le privé. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça aujourd'hui. Si on entend des discours un peu dans les médias, ce qu'a dit le président de la République, le risque pour les universités de privilégier le temps long alors que les pouvoirs publics privilégient le temps court.
C'est peut-être une question à renvoyer aux pouvoirs publics. J'essaie de me souvenir que je parle au nom de France Université, donc j'essaie de m'acheter une conduite là. comment dire ? Ah, le nucléaire est un excellent exemple. Nous avions dans mon établissement, et en tout cas c'est la présidente de l'Université de Lorraine qui s'exprime là, et c'est pas France Université, nous avions dans mon établissement des filières sur le nucléaire, et on est plus particulièrement spécialisé dans la partie aval, c'est-à-dire tout ce qui est recyclage, traitement des déchets, ou la partie amont sur toute la partie ingénierie minière, les questions de l'eau, etc. etc. Donc, voilà. Et puis sur le processus de... le nucléaire en général, mais quand même plus spécialisation sur l'environnement du nucléaire. À un moment donné, l'État nous dit le nucléaire, c'est fini. Ah ben alors, on arrête. Hein. On arrête. Et quand une université, elle arrête un de ses domaines de connaissances, elle va arrêter les formations, mais elle va aussi arrêter la recherche. Et puis un jour, l'État nous dit le nucléaire, c'est merveilleux, c'est l'énergie verte de demain. Donc on change complètement de mouvement. Et on
avec
nous dit, mais qu'est-ce que vous faites, les universités ? L'hydrogène, c'est un sujet qui est porté par les établissements pour le coup et qui se développe, mais personne ne nous a jamais dit arrêtez de travailler là-dessus. Voilà. Donc on perd des compétences en formation, on perd des compétences en recherche, et du jour au lendemain, on nous dit... mais attention les enfants, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas capable de relancer vos formations sur le nucléaire du jour au lendemain. Mais c'est quand même ignorer fondamentalement ce que sont les universités, c'est-à-dire le fait que la formation découle des activités de recherche et que quand je n'ai pas de compétences en recherche, je ne vais pas pouvoir proposer de formation derrière, sinon ça ne serait pas des formations universitaires. Donc j'entends le caractère... la critique qui nous est faite de ne pas pouvoir nous adapter à des injonctions qui se transforment tous les 6 mois. Je pourrais parler de la formation des enseignants, mais là, vraiment, je vais m'acheter
ça, c'est un autre...
Mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit dans des injonctions qui se transforment, qui ont un caractère extrêmement mouvant. Mais c'est vraiment méconnaître ce que sont les universités, la fonction particulière des universités dans le paysage de l'enseignement supérieur et la recherche. C'est pas une fonction d'exclusivité, tout n'a pas à se passer à l'université, mais quand on a des universités, a fortiori comme en France dans le cadre du service public, quand on a des universités, on les utilise pour ce pourquoi elles sont faites et pas pour rendre des services ancrés dans l'immédiateté d'une politique qui a du mal à tenir dans la durée qui est pourtant nécessaire pour la transformation de la société, comme nous le savons les uns et les autres. Les unes et les autres.
Une réponse.
J'ai pas utilisé la formule égalitaire adéquate.
Valérie.
Il y a une petite évolution là-dessus. On essaie de conjuguer à la fois... le temps long, la formation et la recherche, le besoin de soutenir les universités et en même temps de s'inscrire dans des stratégies nationales et internationales. Je pense au CMA. C'est un moyen qu'a trouvé l'État d'essayer d'entraîner les universités dans cette réflexion sur les filières. Les filières qui vont faire à la fois appel à des besoins économiques de la société, à des besoins en recherche et qui vont découler notamment en formation. Est-ce que là, les universités s'en sont quand même bien saisies de cet outil-là ? Est-ce que c'est un moyen intéressant de résoudre cette problématique ? C'est ce qui pourrait apparaître effectivement actuellement comme une contradiction.
Oui, c'est un levier de transformation. Une nouvelle fois, vous ne pouvez pas inventer un CMA sur quelque chose que vous n'avez pas chez vous. On met des dizaines, des siècles, voire même pour construire des universités. C'est pas tout à fait pour rien. En tout cas, c'est à minima des dizaines d'années parce que les processus de recherche, ça prend des dizaines d'années à être développés. Il y a quelques exemples que je connais autour de moi. Si je prends l'Université du Luxembourg, est arrivée avec une stratégie forte de spécialisation forte et des moyens extrêmement importants à s'installer dans le paysage international. Ça leur a pris 20 ans. Vous comprenez bien que si je réponds au service de l'État, vos demandes de formation sur le nucléaire, vous êtes gentil, mais vous allez attendre 20 ans. ça risque d'être problématique. Donc, il y a pour moi une difficulté des universités à expliquer ce rôle particulier qui est le leur et une difficulté de nos interlocuteurs à saisir ce rôle-là, en tout cas lui donner la place qui est la sienne et qui, une nouvelle fois, n'est pas une place hégémonique et exclusive.
Alors, je n'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple du nucléaire, parce qu'on voit assez peu d'écoles privées qui vont se mettre sur ce créneau, en tout cas pour l'instant. Mais par contre, sur l'informatique, historiquement, le privé a occupé des créneaux que les universités ne pouvaient pas, n'arrivaient pas. Enfin, ça, je n'ai pas de jugement à apporter, mais il y a eu un besoin en informatique de formation qui était considérable. Il y avait de la recherche dans les universités, et on a l'impression que le privé s'est nourri de la difficulté qu'ont eu les universités à répondre à cette demande sur le long terme.
Alors, c'est nourri de besoins du marché et parfois de défauts d'exigence dans la qualité des formations. Hein, quand je vois qu'on a des officines, je demande toujours à mes collègues de la faculté de pharmacie de m'excuser de l'utilisation du terme, mais je vois qu'on a des officines qui proposent des formations en experts de la cybersécurité en 6 mois montre en main. Il faut être sérieux à un moment donné. Je pense que ça fait partie des lois du marché. Hein. Tant qu'il y a des gens qui veulent bien acheter des Dacia pour le prix de Porsche, que ce que je vous dise, ouais, c'est ainsi. Alors, les universités ont accru de manière très sensible leur capacité à former dans le domaine du numérique, hein, de manière large, parce que ce ne sont pas juste des informaticiens dont on a besoin, c'est la transformation pratiquement de tous les métiers pour intégrer la dimension du numérique. Elles l'ont fait, elles travaillent avec des ressources qui sont des ressources en appui direct de l'enseignement à la recherche, qui sont des enseignants-chercheurs, avec un taux de renouvellement ou de transformation de ces ressources-là qui est relativement faible. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas transformer 150 emplois par an. Donc, on a une transformation, en fait, de nos ressources en appui de cela qui a un régime un peu plus lent que quand on travaille avec des ressources contractuelles.
Et par exemple, par rapport à ces officines, la position de France Université, elle est actée. C'est-à-dire, il faut sévir. Comment vous voyez le paysage futur.
Je vous remercie de me rappeler que je parle de notre université aujourd'hui. Oui, elle est actée. France Université s'est exprimée pour demander, solliciter la mise en place d'une véritable régulation. Hein, je reprends les termes de mon collègue à côté de moi. Régulation, nous avons proposé la mise en place d'un code de déontologie qui s'appliquerait à tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec une exigence et des vérifications en termes de qualité des services qui sont proposés, bien sûr pas assurés par l'université, mais on a des instances d'évaluation qui permettent d'attester de ces qualités-là. Nous demandons aussi et exigeons le respect d'un certain nombre de termes. Une université, c'est pas n'importe quoi. Quand on utilise le terme université, ça doit s'appliquer à un acteur qui a des propriétés bien particulières. Un master, c'est un master, ça n'est pas autre chose. Et c'est pas parce que ça nous arrive aussi sur le doctorat, on rajoute un E ou on ajoute un accent ou que sais-je, que cela permet de faire n'importe quoi à côté. Enfin, il y a des exigences aussi dans l'utilisation des labels. Des noms, des termes qui sont utilisés et des labels qui s'imposent, qui donnent une idée de la qualité de ce qui est proposé. Et le travail des instances d'évaluation, des marches qualité qu'on va retrouver au travers du label Calliope, par exemple, sont des éléments sur lesquels le ministère doit pouvoir s'appuyer pour opérer cette régulation au niveau national et lutter contre les publicité mensongère, les démarches commerciales extrêmement agressives qu'on voit s'opérer dans un certain nombre de lycées et réguler ce.
Mais votre position, c'est pas un nouveau label, c'est utiliser ce qui existe.
Nous avons tous les outils nécessaires pour procéder à cette régulation et j'ai cru comprendre, mais Anne-Sophie Barthez en parlera peut-être tout à l'heure, qu'il y a une véritable intention du ministère de se saisir de ce sujet-là et notamment d'améliorer la qualité de l'information des lycéens sur l'offre proposée.
Notamment sur Parcoursup, j'imagine.
Via Parcoursup, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres projets.
D'accord, on espère qu'elle va nous expliquer un peu plus.
Mes sources d'information, c'est l'AEF en l'occurrence. Donc,
bah, ils sont là, donc on leur demandera. Alors, qui dans la salle veut poser des questions ou faire des remarques, hein, profitons-en. Je croyais qu'il y avait plein de questions. Ah, voilà. Alors, on va demander pour tout le monde de se présenter.
Je reviens sur les territoires. Je pense qu'il y a des territoires qui sont particuliers. Moi, je parle d'un territoire qui est coincé entre la montagne et la mer. Donc, quelqu'un ne peut pas s'installer sans qu'on le voit physiquement. Il y a des territoires qui sont plus grands, mais pour nous, on ne peut pas nous dire qu'on s'est installé un matin et ça ne s'est pas vu. En réalité, ça revient à avoir des discussions régulières avec les collectivités qui sont systématiquement sollicitées pour financer, en fait. Hein. Un des sujets que le président avait vu et qu'on avait vu ensemble, c'était que globalement, quand un établissement privé, ou même public d'ailleurs, mais privé aussi, s'installe sur le territoire, il demande à être accompagné pour s'installer. Il répond à un besoin en général qui peut être un besoin court terme, donc, ou un besoin complémentaire. Et ensuite, il va voir les collectivités pour leur dire « j'ai besoin de mètres carrés pour démarrer ». Voilà. Dans le meilleur des cas, quand les gens sont bien élevés, ils viennent dire « je me présente et je vais travailler avec les collègues qui sont déjà en place, donc en particulier l'université ». Et puis dans d'autres cas, les gens s'installent en mode copier-coller de ce qui s'est fait ailleurs. L'intérêt de travailler avec les collectivités, c'est que si les choses se font correctement, on discute avec eux au moment des demandes d'installation et les collectivités nous disent « tiens, on a été informé par telle personne, on a eu beaucoup de cas dans l'informatique, en particulier sur Sophie Antipolis, où le besoin en informaticien de très haut niveau est toujours très important et nous ne sommes pas capables de fournir l'intégralité des besoins ». Pour des raisons de capacité de production, enfin, c'est pas beau le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais néanmoins, c'est pas les formations qui arrivent sur place qui vont régler ce problème-là, parce qu'ils ne forment pas des informaticiens de très haut niveau. Donc c'est là aussi. Donc du coup, les collectivités nous appellent en disant qu'est-ce que vous en pensez, comment. Donc on fonctionne en bonne intelligence, mais ça se passe pas naturellement, parce que sinon ça dépend des personnes. Donc en fait, on a créé au sein de l'EPE, on a créé des comités de pilotage. Dans lesquelles les collectivités sont. On a rapproché la fréquence de ces comités de pilotage pour que ce ne soit pas juste des moments où on mange un petit gâteau et on se dit bonjour pour valider les comptes, mais vraiment où on discute de stratégie. Et quand on entend un bruit qui dit « tiens, ce bâtiment pourrait être modifié pour accueillir une école », dans la demi-seconde, on appelle les cabinets ou les élus pour vérifier que l'information est bonne. Et franchement, jusqu'à maintenant... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu arriver de monde, parce que je crois qu'on est à 30% d'augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur privé. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui s'est installé, mais on a été au courant d'à peu près tout. Et on essaie ensuite d'informer les collègues du rectorat pour qu'ils puissent communiquer correctement auprès des chefs d'établissement et des profs sur la réalité de qui arrive. Voilà. Mais on a un territoire particulier, parce qu'il est pas très, enfin, il est dense, mais il n'est pas très gros, comme je le disais.
Je ne sais pas s'il y a des exemples dans la salle, mais il y a dans certaines régions, et je trouve que c'est très intéressant, ce qu'on appelle des conférences territoriales, qui associent effectivement les établissements d'enseignement supérieur et les collectivités. Et c'est effectivement à ce niveau-là que doit se jouer le partage d'informations pour anticiper à la fois les besoins et la réponse qui est donnée de part et d'autre. Je ne sais pas si vous pratiquez ça. Donc, vous l'avez intégré dans votre gouvernance interne, mais dans d'autres cas, ça peut être fait à l'initiative soit des établissements, soit des collectivités elles-mêmes.
Il y a une petite ambiguïté aujourd'hui sur qui pilote la stratégie c'est de l'enseignement ça. Supérieur. Donc, comme la nature a horreur du vide, on a essayé de la combler.
Ouais, c'est mieux.
On a essayé de combler ce vide en essayant de proposer qu'on soit légitime et crédible pour proposer... proposer nos services et éclairer les décisions des collectivités. Parce que être financeur, c'est très important, mais sur la stratégie d'enseignement supérieur,
c'est... que ce soit accepté.
Voilà. Ouais.
Alors, je peux évoquer, moi, le cas de la Mayenne. Je vais me transformer en directeur général des services. Non, plus simplement, ce qui m'a intéressé dans l'échange que j'ai eu avec votre collègue de la Mayenne, bon, ils sont à Laval, ils ont l'école de design de Nantes qui va s'implanter à Laval, mais sur un programme différent de ce que l'école de design propose à Nantes. Et puis ils ont l'université catholique de l'Ouest qui est un gros morceau et ils mettent de l'argent. Pas, ce qu'ils me disaient, c'est pas par raison simplement d'affinité de politique, etc. C'est le poids de l'université catholique de l'Ouest, mais ils mettent quand même pas mal d'argent en investissement et en fonctionnement. Donc ça, je vois que... Il y en a qui sont au courant dans cette salle. Donc quand même, ils considèrent que c'est un élément extrêmement important de la dynamisation du territoire, avec une difficulté par rapport, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Mans, le Mans Université, voilà, sur l'antenne de Laval. Bon, bah, évidemment, c'est pour faire venir des enseignants chercheurs, etc. Donc avec un système, bon, je ne rentre pas les détails parce que ça va être transcrit, que la Cour des comptes apprécierait peu. Pour les motiver, pour résumer, bon, si lui avait été là, il vous en aurait parlé directement, mais je ne veux pas le faire. Mais bon, c'est quand même compliqué, des relations compliquées, très positives avec l'université, mais plus compliquées, selon lui, qu'avec l'université catholique de l'Ouest. Hein. Bon, l'université, c'est toujours plus compliqué, la gouvernance, les personnes, etc. Mais ce qui était... moi, je l'ai interrogé sur les écoles privées, parce que l'Université catholique de l'Ouest, c'est quand même un peu différent d'une école privée comme École 42, Holberton, qui forme aussi sur l'informatique, etc. Et lui, il a un regard, ce qui est intéressant, parce qu'il a fait ça en Charente, il a fait ça en Mayenne, sur l'évolution de l'enseignement supérieur privé. Lui, il pense qu'on va avoir une régulation forte par le marché parce qu'il y a des coûts fixes qui sont supportés par les universités, mais pour le privé, c'est pareil. Et que c'est, il avait fait venir Audencia, par exemple, en Charente. C'est difficile à supporter quand vous savez qu'il y a plein d'écoles de commerce aujourd'hui qui arrêtent leur programme immobilier, etc., qui sont face aussi à des problèmes économiques qui... ne sont pas que les problèmes de fonds de roulement des universités, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lui, il a une vision où il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec son conseil départemental sur les écoles privées. Il est prudent. Et il a été rendu prudent parce qu'il s'est passé en Charente, où justement, ils ont implanté, ils étaient dans une course à l'armement pour implanter des écoles privées. Il y a eu deux faillites, donc avec des étudiants sur le carreau, hein, ce qui, en termes d'image... pour une collectivité locale est très compliqué. Bon, alors là, je me fais un peu l'interprète de ce qu'il m'a dit. Il l'aurait dit beaucoup mieux que moi. Mais leur stratégie, c'est de dire on voudrait pas que dans une ville moyenne comme Laval, il n'y ait que des gens de la Mayenne. Ils veulent avoir une politique quand même avec des masters, etc., ce qui n'est pas simple, pour avoir une attractivité en dehors du département. Alors, il me donnait un chiffre, je ne l'ai pas vérifié, hein, je me fique, qu'à Laval, il y avait 40% d'étudiants originaires de Mayenne. Donc, sous-entendu, 60% qui viennent d'ailleurs. Et ça intéresse une collectivité locale. Hein, elle est intéressée par apporter une réponse locale à ses citoyens, hein, aux familles, y compris donc avec du privé. Mais elle est aussi intéressée pour des objectifs à plus long terme par attirer des étudiants d'un peu partout et de faire que leurs propres étudiants s'enrichissent ailleurs. Hein, sorte. Bon, voilà. En tout cas, c'est la vision d'un directeur général des services qui est assez expérimenté sur ces questions d'enseignement supérieur. Donc lui, son enjeu, c'est une offre de second cycle, par exemple. Où là, il y a quand même un aspect différenciant potentiel par rapport au privé, hein, qui est complètement centré sur le bachelor, sachant que les écoles de commerce, bon, ils vont pas ouvrir des masters à 10 personnes dans les villes moyennes. Donc voilà, en tout cas, j'ai été frappé par son constat assez, que j'estime assez lucide, sur le fait que le secteur privé aussi, une partie, a mangé son pain blanc et va manger son pain noir. Il va y avoir un effet de régulation par le marché des mauvais, surtout si les pouvoirs publics, avec l'appui des conférences, mettent l'accent sur la transparence, sur l'évaluation, etc., pour que les familles soient bien informées. Voilà, je fais un peu cette incise. Hein. Bon, c'est toujours difficile de parler à la place de quelqu'un. Mais en tout cas, par exemple, une école de design, c'est pour 250 étudiants d'objectif. L'université catholique, c'est 750. Déjà 1000 étudiants. Hein. 1000 étudiants à l'échelle d'une ville comme Laval, c'est important. Je vois que le DGS du Mans va apporter des correctifs.
Bien sûr. Le dynamisme urbain, le dynamisme de population jeune et dynamique.
C'est pour ça que je disais 1000 étudiants, hein, il m'a donné.
C'est pas les études, c'est pas le contenu des études qui les intéresse. C'est d'avoir de la jeunesse, c'est d'avoir des consommateurs, c'est d'avoir des étudiants, c'est d'avoir une vie culturelle. Et sur Laval, ils veulent passer de 5000 à 10000 étudiants, au moins de 12000 à 20000, parce que non pas pour la beauté du geste, mais pour l'intérêt des lycéos ou d'autres, c'est simplement qu'ils veulent avoir une ville qui soit tonique, qui fasse venir des Parisiens, qui on n'est pas sur de l'intérêt sur le contenu des études, mais sur je dirais la population.
Il n'y a pas d'intérêt sur l'impact sur le développement économique. Je ne parle pas de la consommation étudiante, mais l'impact sur le développement économique d'avoir une main-d'œuvre qualifiée en master, qui est quand même un privilège, entre guillemets, universitaire, enfin, de pouvoir amener les étudiants à ce niveau-là avec des compétences liées à la recherche. Parce que dans les masters, en théorie, c'est quand même ça. Donc il y a cet aspect, effectivement, consommation étudiante. C'est pour ça que, bon, lui avait travaillé pour amener plein d'étudiants dans ses fonctions précédentes par rapport à cet aspect-là. C'était rajeunir la population. Hein. Ça, c'était clair. Hein. Alors là, une population vieillissante, il voulait des jeunes. Mais il y a un autre étage dans les stratégies des collectivités, même si elles ne sont pas forcément homogènes, où là, il y a une distinction entre le privé et le public, me semble-t-il, hein, sur la qualité, on va dire le haut de gamme des formations. D'ailleurs, moi, ce qui m'a intéressé ce matin, c'est un peu ce qu'a dit Martin Hirsch, disant, ben, nous, on a des étudiants qui étaient un peu... On prend des étudiants qui étaient en échec à l'université. Sous-entendu, l'université, c'est le top niveau. Ça m'a fait penser aux boîtes à bac de ma jeunesse. Enfin, moi, je n'étais pas en boîte à bac, mais... Alors là, bon, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais les bacs pro, mais l'université souffre de ça, quoi. Elle est très haut de gamme et elle a une image qui souvent est minorée. Je sais pas ce que vous en pensez, Hélène.
Vous avez le don pour poser des questions d'une manière.
Ah, je suis là pour ça.
Ah oui, j'entends bien. Il y a beaucoup de choses, hein, dans ce qui a été dit qui sont très intéressantes. Hein. On a eu une approche très longtemps très métropolisée des universités. C'est ensuite ouvert un certain nombre de champs des possibles sur une démétropolisation. Mais il y a quand même un certain nombre de choses à rappeler, me semble, notamment l'idée que la mobilité, qu'elle soit intellectuelle ou géographique, est essentielle pour la formation de la jeunesse. Et que de ce point de vue-là, quand une collectivité raisonne, par exemple, sur l'intérêt qu'elle pourrait avoir à soutenir le développement économique d'une filière, elle a aussi intérêt à encourager des formes de mobilité intellectuelle et physique la question de la mobilité dans la formation de la jeunesse, il va falloir la reposer. Je ferme la parenthèse et je reviens parce que c'est un sujet qui me passionne, hein, la stratégie territoriale des universités ou des territoires pour l'université selon la manière dont on l'appréhende. Oui, il y a des étudiants qui ne trouvent pas ou qui n'achèvent pas leur parcours de formation à l'université, c'est certain. Moi, je refuse hein, qu'on considère ces étudiants comme étant des étudiants en échec. Vous allez trouver des études qui démontrent que même quand on n'a fait qu'une première année à l'université, ça a un impact positif sur la trajectoire de carrière.
Mais c'est pas bien mesuré, ça, encore.
Ah si, il y a des sociologues qui ont fait des enquêtes sur le sujet qui montrent assez clairement qu'il y a un impact positif de ce passage-là.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne le mesure pas systématiquement.
Voilà. On ne le mesure pas systématiquement, c'est juste. Mais on a des enquêtes, des enquêtes assez sérieuses et scientifiques, là, pour le coup, qui permettent de l'asseoir. Donc pour moi, ça n'est pas un échec, c'est une étape dans une trajectoire de formation. Et je le dis et je le répète, l'université n'a pas vocation à être hégémonique, c'est-à-dire à former l'intégralité des étudiants en schéma post-bac. Bien, sur une partie de cette formation. Quant à la représentation de la fonction des universités en France particulièrement, c'est un fait. Elle est inversée par rapport à la situation qu'on connaît dans la plupart des pays dans le monde. Cette inversion, nous la devons à Napoléon. Je rappelle que la reconstruction des universités en France, elle n'est pas si ancienne que ça. Ça fait seulement quelques dizaines d'années que les universités sont repositionnées dans le paysage, dans un paysage où n'existaient auparavant que les écoles et les facultés, et le schéma de référence qui est celui des grandes écoles. Il me paraît donc assez logique qu'on ait encore des efforts à faire pour améliorer la représentation de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un organisme de formation professionnelle. Ça me paraît être une évidence. Ça semble, même parfois, cela semble ne pas être totalement compris. Donc il y a un vrai travail de communication à faire. Je parlais des représentations associées aux formations universitaires chez les étudiants, futurs étudiants et leurs familles tout à l'heure. Mais on pourrait aussi parler des partenaires de l'université, des entreprises, des médias en général et des femmes et des hommes politiques. Voilà, d'un gros, gros effort. Mais il me semble qu'on n'est pas totalement inactif de ce point de vue-là. Mon voisin évoquait tout à l'heure le travail hein, dans la relation avec les politiques, le travail de présence dans les médias, le travail de communication, le fait qu'on commence à utiliser des ressorts du marketing aussi pour, pour nos offres de formation. Pas dans le marketing, dans le sens d'une démarche de commercialisation, on n'est pas dans une logique de vente d'un produit, mais on est dans une logique qui consiste à aller chercher des arguments sur nos formations qui vont permettre de mieux les promouvoir et de garantir la qualité du choix qui est opéré par les étudiants. Enfin, pour arriver à mieux projeter les bons arguments, en fait.
Bien, ben voilà, on accueille Anne-Sophie Barthez.
Ça y est, c'est fini.
La parole est à Anne-Sophie Barthez. Non, je la laisse s'installer. Bonjour.
Ça va ?
Et est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions par rapport à ce matin, par rapport au débat de ce matin qui a été, je le précise pour Anne-Sophie Barthez, assez intense et selon tout le monde, je crois, assez intéressant. Il reste un intervenant ce matin. Et un deuxième avec Laurent Batch qui est là, Gérard Pignot et Laurent Batch qui sont, restés. Qui veut dire un mot justement, peut-être Laurent Batch ou Gérard Pignot, je ne sais pas.
Avec la communication dévoyée, etc.
C'est là-dessus aussi que l'université prend du côté, les BTS un peu loin, et l'université aussi. Moi, je pense pas qu'on aurait occupé la place que le privé a su prendre à ce niveau-là, surtout sur l'apprentissage. Je pense quand même que, à force de différer et de procrastiner la réforme du premier cycle, une vraie réforme qu'on prend par là, on laisse l'espace ouvert. Voilà. Je pense en particulier que le fait d'avoir trop, d'avoir toujours, enfin, il n'y a peut-être pas fait, tarder à assumer la vraie différenciation du premier cycle, est une grosse erreur. Et en particulier qu'on passe à côté de la construction d'une vraie grande licence technologique prestigieuse, mais qui aurait comme objectif de déboucher sur des emplois cadres intermédiaires. Un programme de licence terminale n'est pas conçu de la même façon qu'un programme de licence préparatoire au master. Bon. Et donc, notre handicap en tant qu'universitaire, mais peut-être aussi que ça nous éloigne en effet de la problématique recherche et formation, je le pense dans une certaine mesure. Hein, bon. Mais en tout cas, si on veut répondre au niveau de la demande d'un avocat intermédiaire et d'une licence et d'un premier cycle du post-bac professionnel, il faut arrêter de militer dans un coin un BUT parce qu'on ne veut pas la licence et ça arrange tout le monde. Il faut mélanger tout ça avec des licences pro descendues au niveau comme tout ça. Il faut en affirmer la dignité. Il y a un sujet, la différenciation des licences. Et c'est à côté de ces licences-là, il y a des licences prépa, puisqu'après tout, on ne voit pas pourquoi les universités n'ont pas aussi, comme les classes prépa, comme les lycées, le droit de faire les classes préparatoires, pardon, les licences préparatoires, au concours aussi bien qu'au master, en particulier dans les études littéraires, puisque on sait très bien qu'il y a très peu de places dans les concours, la plupart des CAN et des CAN ne font que passer par là pour aller dans les 3, par les 3, par les 3. Donc, je dis, c'est un peu brouillon. Je veux dire, c'est ça, c'est à ne pas constituer une voie prestigieuse, portée politiquement, de licence technologique, qui s'est privée, je pense, d'un outil, je ne sais pas, il n'aurait pas suffi, mais je pense qu'on s'est privé d'un outil qui aurait permis de capter cette aspiration du post-bac qui ne se retrouve pas dans nos formations actuelles. Et alors, en effet, mais là, je reconnais les mêmes. Moi, je vais jusqu'au bout d'ailleurs sur cette affaire-là. Je reconnais qu'on est là sur un premier cycle qui est évidemment inspiré par la recherche, mais dans lequel la recherche n'est pas une dimension très, très présente. Mais je vais même jusqu'à dire que le progrès, c'est promouvoir la création d'un corps de professeurs de première chaire qui seraient des corps de professeurs de licence et qui auraient, comme notre Prague actuel, la capacité d'intégrer les connaissances, les missions qu'ils ont, mais au service d'une problématique de formation. Voilà. Donc, s'il ne faut pas le faire, on ne le fait pas, mais il ne faut pas s'étonner et il ne faut pas regretter que le privé prenne cette place-là. S'il faut le faire,
Je vais préciser quand même ce que je voulais dire par la formule « nous ne sommes pas un organisme de formation professionnelle ». Moi, j'ai fait la moitié de ma carrière dans un IUT. Mon premier diplôme du supérieur après le bac, c'est le DUT. Donc, quand on parle de formation technologique, à laquelle j'ai participé pendant 10 ans, je sais à peu près de quoi je parle. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose. Quand je dis les universités ne sont pas des organismes de formation professionnelle, pour un organisme de formation professionnelle, il propose une formation qui est finalisée dans le présent, dans un temps qui est celui de l'immédiateté. Vous avez bien dû vous rendre compte depuis tout à l'heure, je parlais beaucoup de temporalité dans la manière dont je considérais les choses. Une université, pour moi, quand j'en parle aux étudiants, je dis c'est à la fois votre présent et votre futur. C'est aujourd'hui, c'est demain et c'est dans 20, 30 ou 40 ans. Nous équipons les étudiants, y compris dans nos formations technologiques, qui ont un caractère professionnalisant, mais qui ne sont pas des formations professionnelles. Moi, je fais la distinction entre les deux. Nous équipons nos étudiants avec les outils qui vont leur permettre de construire une trajectoire professionnelle élaborée. Alors, bien sûr, ils vont faire appel aux ressources de la formation continue tout au long de leur vie, mais avec une caractéristique qui est celle de la formation dans les universités, qui n'est pas celle que l'on va trouver dans des classes préparatoires, que l'on va trouver dans d'autres organismes de formation que l'université. Et c'est cette spécificité que l'on doit mettre en avant. Je ne voulais pas dire, puis étant présidente d'une université dans laquelle il y a 8 IUT, 11 écoles d'ingénieurs, un certain nombre d'autres choses qu'on peut considérer comme des écoles inter, je pense que je dois avoir le plus grand nombre de 713-9 dans le supérieur ou pas loin. Je tenais quand même à expliciter la formule que j'ai utilisée tout à l'heure.
Merci. Alors, il y a une perche tendue à Anne-Sophie Barthès sur la grande réforme de l'enseignement supérieur et du premier cycle. En tout cas, ce matin, Anne-Sophie Barthès, on a beaucoup évoqué la régulation, évidemment, mais pas que. Hein, on est revenu beaucoup sur la nécessité pour la qualité d'avoir de la transparence, pas seulement dans le privé, mais aussi dans le public. D'avoir des systèmes d'information et de données qui soient fiables, notamment sur le suivi de l'insertion professionnelle. Donc là, il y a eu une forme de convergence publique-privée, un peu moins sur le chiffre d'affaires et les dépenses de marketing, bien évidemment. Mais quand même, c'est quand même une question qui est revenue pour la comparabilité, tout compte fait, de la qualité. Et puis, on est revenu sur la régulation. Alors, tout le monde est pour la régulation. Donc c'était déjà la bonne nouvelle ce matin.
C'est pour ça qu'il y a une fenêtre de tir.
Tout le monde est pour la régulation.
Qu'on n'a pas toujours eu.
Donc par contre, quelle régulation? Alors là, on attend un peu quelques pistes. Tout le monde attend un peu quelques pistes du ministère. Alors je ne sais pas où en est la réflexion exactement, mais il y avait en tout cas des positions sur les labels en disant, je crois que Gérard Pignot y est revenu, Lynn Frangier aussi, sur attention à la lisibilité pour les jeunes et les familles. Je crois que tout le monde convergeait aussi là-dessus, hein, un peu. Bon, il y a eu un débat aussi sur l'apprentissage, bien évidemment, et le financement des formations par l'apprentissage. Donc voilà, hein, je récapitule, mais ça sera bien retranscrit, en tout cas... Alors, AEF, nous sommes les échos, je ne sais pas si Marie-Christine va nous faire un récapitulatif de cet ordre-là, je ne pense pas, mais le détail des débats, on y aura accès après. Donc voilà, Anne-Sophie, donc, sur la peut-être Gérard Pignot, oui.
Et notamment de leur système éducatif, depuis le primaire jusqu'au doctorat. Et de ce point de vue-là, on a pas mal de choses, on a pas mal de choses à faire. Et moi, je crois à la biodiversité. Hein, c'est comme dans l'écologie. Hein, les systèmes avec une grande biodiversité sont beaucoup plus résilients et ont beaucoup plus d'avenir que les systèmes sans biodiversité, tout simplement parce que c'est très clair. Dans beaucoup de domaines, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer à droite ou à gauche. Moi, je me souviens que j'étais aux États-Unis en 2010 quand les MOOC sont sortis. Panique générale. On est tous morts. Les universités, les machins, tout le monde vient suivre ses cours à MIT tranquillement. Et puis, il n'y aura plus qu'une université. Enfin, donc, c'était vraiment la panique générale. C'est pas du tout passé ça. Et les gens étaient sincères. Hein, je pense que les gens pensaient réellement que c'est ce qui allait se passer, qu'on allait être tous morts. Mais en fait, non. Donc, voilà, soyons un peu. Cultivons cette biodiversité et avec des paradigmes différents suivant les établissements. Ce n'est pas le hasard si les établissements privés lucratifs se sont beaucoup développés sur l'informatique. Vous pouvez faire de l'informatique sans recherche, absolument sans recherche. Vous avez des tables, des chaises, et puis vous demandez aux étudiants de venir avec un portable, et puis vous demandez aux étudiants de l'année supérieure de les former, et ça marche. L'école 42, c'est quasiment une école d'auto-formation. Et dans la organisé, mais c'est de l'auto-formation, pas de corps professeur. Voilà, donc, et effectivement, nos systèmes ont eu du mal à répondre à ce que j'espère sur l'informatique, c'est qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la robotique, ne pas avoir de recherche va devenir un peu plus, plus pénalisant.
Anne-Sophie.
Merci. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. La première chose que je voulais dire, bon, merci d'abord de m'avoir invité, Valérie, et puis le bureau, etc. Je suis toujours très contente de venir. Mais sincèrement, je crois que c'est la première fois qu'est réunie, enfin, je re-regarde le programme, etc. C'est la première fois. C'est juste dingue. D'abord, bravo, et c'est juste dingue. La première fois qu'on réunit dans un même endroit des universités, du privé, du lucratif et du pas lucratif. Voilà. Et ça, c'est un problème. Voilà. Non, mais bien sûr, c'est une difficulté. Car quand on veut passer son temps à caricaturer l'autre système, il n'y a rien de tel que de ne jamais se rencontrer. Et je suis très contente. J'avais mon espionne ce matin, Catherine, non, je plaisante, mais qui m'a dit que c'était très intéressant. Et, voilà, et ce que vous dites là le redit, en fait. Donc vraiment, bravo d'abord d'avoir choisi ce thème qui, moi, me passionne. Et deuxièmement, d'avoir invité tout le monde, quoi. Voilà, d'avoir invité tout
même
le monde.
Même une banquière.
Oui, c'est ce que j'ai vu, oui, même une banquière. Ah oui, j'avais pas vu la fin, oui, spécialisée. Ah oui, assez génial.
Elle n'a pas proposé de racheter une université.
Pas encore. Bon, voilà. Non, mais c'est pas... C'est... Ça. Non, mais ce sont pas des remerciements classiques que je fais là. C'est surtout un bravo, encore une fois, d'avoir constitué ce tour de table. Alors, je vais vous dire où on en est, et je partage beaucoup de ce que j'ai, enfin même tout ce que j'ai entendu là depuis que je suis arrivée. Nous, notre point de départ au ministère, ça a été, vous l'avez dit, et je ne le dis que d'une phrase parce qu'on est tous d'accord, c'est l'illisibilité de l'offre de formation d'enseignement supérieur. C'est vrai, beaucoup privé, et surtout post-bac. Je suis d'accord, Laurent, le sujet, il est surtout post-bac. Nous, notre porte d'entrée, elle a été celle-là. L'illisibilité de cette offre de formation et notre volonté d'assumer, en tant que ministère d'enseignement supérieur, de vouloir dire aux jeunes et à leurs familles, parce qu'on est post-bac, beaucoup, ce qu'ils ont sous les yeux. Voilà. Sans jugement, avec trois postulats. Le premier, c'est qu'on n'oppose pas le public et le privé, et on n'oppose pas le privé lucratif et le non lucratif. Notre porte d'entrée, elle est toujours la formation. Deuxième postulat, et je m'aperçois que c'est le titre d'aujourd'hui, donc formidable Valérie, la complémentarité évidemment entre cette offre de formation publique et privée, et Laurent, tout ce que vous avez dit, évidemment j'y souscris. Et la troisième chose, qui est peut-être pas la plus difficile, mais non, c'est un refus absolu de hiérarchiser les formations entre les formations adossées à la recherche et les formations strictement professionnalisantes. Elles ne visent pas le même public, elles ne visent pas les mêmes objectifs, et tant mieux. Voilà, et tant mieux. Et il faut juste dire aux gens ce qu'ils vont trouver derrière une formation adossée à la recherche. Je rejoins complètement Hélène quand elle dit ce à quoi elle forme, à des gens qui vont s'adapter tout au long de leur vie. Et je rejoins aussi Laurent quand il expliquait ce qu'était une formation professionnalisante et peut-être pourquoi il n'y en avait pas suffisamment ou les universités ne s'en étaient pas suffisamment emparées. Donc ces trois postulats, hein, pas d'opposition, la complémentarité organisée et surtout pas d'hiérarchie. Alors quand on a regardé ce sujet de la lisibilité, on a beaucoup consulté évidemment, on s'est aperçu côté privé que le secteur privé proposait deux types de formations, ça va être un scoop. D'une part, des formations adossées à la recherche. Il n'y a pas que des universités qui proposent des formations adossées à la recherche. Et que pour ces formations-là, on avait déjà un label. Alors, pardon, le mot label, on peut le discuter à l'infini, est-ce que c'est le bon, etc. Je continuerai à dire label, mais on a déjà un label, c'est le grade licence, le grade master. Quand une école vient de mettre sous le nez du ministère une formation en demandant le grade, on regarde s'il y a un adossement de qualité à la recherche. Et là, j'allais dire grosso modo, mais même pas grosso modo, ça fonctionne. Le processus d'évaluation fonctionne, les critères fonctionnent. On peut toujours trouver qu'il faut que ça s'améliore, que ça aille plus vite, moins vite, j'en sais rien. Mais quand même, grosso modo, ça fonctionne. et on sait ce qu'il y a. Alors, on l'explique sans doute pas assez, et je vais peut-être y revenir, mais quand même, on sait grosso modo ce qu'est le grade et ce qu'il y a derrière. Et il y a exactement ce que tu dis, Hélène. On donne les clés pour une adaptabilité tout au long de la vie. On a une reconnaissance internationale. On a voilà, des choses qu'apporte la recherche. En revanche, deuxième catégorie de formation proposée par le privé, je fais à gros traits, hein, je suis sûre que vous aurez des contre-exemples et tout, mais on s'en fout. Ce sont les formations strictement professionnalisantes. J'emploie ce terme-là, hein, là aussi on peut le discuter, mais strictement professionnalisantes. C'est-à-dire une formation qui a pour objectif une insertion professionnelle de qualité à court terme, mais de qualité à court terme. Je te promets de te donner les connaissances et compétences qui sont demandées par les employeurs dans tel secteur. Et je m'en porte garant. Et évidemment, parce que je veux que tu sois employable rapidement et avec de la qualité derrière, je vais te mettre, toi étudiant, étudiante, en situation de mise en situation professionnelle durant ce cursus. Pas forcément les 3 années, évidemment, mais à un moment donné, de l'apprentissage, etc. Ce secteur-là de la formation strictement professionnalisante, il a explosé en raison, grâce, à cause de l'apprentissage. Et vous en avez parlé tout ce matin. Et il est là pour nous le trou dans la raquette. C'est-à-dire que ce secteur-là strictement professionnalisant, l'État n'y a un regard qu'au moment où le ministère du Travail inscrit ou pas au RNCP. Et que fait le ministère du Travail ? Il vérifie l'adéquation aux attentes de l'employeur, il vérifie que les compétences sont bien celles attendues par l'employeur, etc., etc. Et c'est évidemment ultra précieux. Mais le ministère du Travail, c'est normal, c'est pas son boulot, ne regarde pas ce que nous, on sait regarder, c'est-à-dire le contenu de la formation, l'accompagnement de l'étudiant, la pédagogie, je vais y revenir, etc. Et au fond, on s'est dit qu'il y avait là un trou dans la raquette pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour le privé adossé à la recherche, on a fait avec le grade. Pour le strictement professionnalisant, on n'a pas fait. Et on a envie de faire parce qu'on n'y comprend plus rien. Et que le jeune, face à une inscription à RNCP, sait un bout de quelque chose, enfin sait quelque chose, mais pas tout. Et il ne connaît pas notamment le contenu de la formation, l'accompagnement, etc., etc. Et du coup, c'est ça, c'est ce à quoi on a voulu s'attaquer, à ce sujet-là, en assumant que, un, cette formation strictement professionnalisante, elle n'est pas moins bien que la licence adossée à la recherche d'Hélène, c'est autre chose, elle promet d'ailleurs autre chose, il n'y a pas les mêmes intervenants, et il y a cette insertion professionnelle immédiate, mais il n'y a pas de reconnaissance internationale. En principe, il n'y a pas de poursuite d'études. Tout ça n'est pas interdit, qu'il y ait de la reconnaissance. Mais enfin, ce n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, sans hiérarchisation, sans dire que c'est moins bien, on souhaite mettre en lumière, au sein de toutes les formations professionnalisantes, celles qui promettent aux jeunes, je vais le dire comme ça, et c'est de cette manière-là que le dit la ministre, un accompagnement de qualité sur un plan pédagogique. Il y a du sérieux dans le contenu de la formation. Voilà. Je prends tout de suite cette précaution devant mes amis universitaires. Ça ne veut évidemment pas dire qu'une formation adossée à la recherche, mais c'est vrai, il faut quand même le dire très clairement, n'insère pas ou qu'on se désintéresse de l'insertion professionnelle en licence et en master, évidemment. Mais c'est une insertion professionnelle immédiate et puis sur le plus long terme, etc. Là, on va regarder, non pas l'insertion professionnelle immédiate, ça le ministère du Travail le fait, mais plutôt ce qui va se passer pendant la formation. Donc, on a rencontré beaucoup de monde, les universités, évidemment, mais le privé lucratif, non lucratif, évidemment, tous ceux qui, pas la banquière, mais sinon, tous ceux que vous aviez avec vous ce matin. On commence toujours notre discussion avec ce que je viens de dire, et tout le monde est d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai. Il y a un besoin de régulation. Et tout le monde le souhaite. Enfin, quand je dis régulation, c'est-à-dire mettre un coup de projecteur sur ce contenu de la bonne formation professionnalisante. Et ça, tout le monde en a envie, besoin, etc., avec une complémentarité organisée avec ce qui se passe par ailleurs. Alors, les questions qui nous restent à régler, elles sont triples. Quelles sont les... Alors, donc, ce qu'a annoncé... Excusez-moi, avant les questions qui restent à régler, C'est la raison pour laquelle, pour toutes ces raisons, la ministre, au mois de septembre, a annoncé qu'elle souhaitait que l'on réfléchisse, j'ai bien entendu Gérard, et j'y reviens après, que l'on réfléchisse à la création d'un label, peu importe son nom, enfin voilà, un label du ministère de l'Enseignement supérieur, pourquoi pas en collaboration avec le ministère du Travail, tout est ouvert, mais d'un label qui va être en complémentarité du boulot que fait déjà le ministère du Travail et qui, évidemment, est de qualité. La ministre nous a dit « Réfléchissez à l'opportunité d'un label et réfléchissez à trois questions. » J'y viens. Quels sont les critères de ce label? Qui va évaluer? Et quelles vont être les conséquences attachées à l'octroi du label? Et on est en pleine discussion avec toutes les parties prenantes sur ces trois sujets. Alors, la ministre ne s'étant pas réexprimée, et en plus, je n'ai pas revu la ministre sur ce sujet depuis le mois de septembre, je la revois la semaine prochaine, donc je peux vous dire quelques petites choses qui en ressortent de ces discussions, sans qu'évidemment ce soit nécessairement ce qui sera décidé à la fin. Sur les critères de qualité, évidemment, on a envie de vérifier qu'il y a une équipe enseignante permanente dans cette formation professionnalisante. Cette équipe enseignante, elle est formée évidemment en majorité par des professionnels. Il n'y a pas en principe, mais rien ne l'interdit, d'enseignants-chercheurs. Ce n'est pas du tout ce que l'on recherche là. On veut des professionnels qui connaissent évidemment le métier et on veut des enseignants dont le métier est d'enseigner et dont la fonction principale est d'être dans telle école pour enseigner cette formation. Ce qu'on veut éviter, c'est la juxtaposition de vacataires professionnels qui viennent une fois dans l'année 2 heures, et donc une juxtaposition de 50, 60 intervenants qui ne savent même pas dans quel projet pédagogique ils s'inscrivent. Deuxième chose sur lesquelles on sent qu'il y a des points de convergence, je ne sais pas comment le dire, mais qu'il y ait une politique. Alors là, deuxième chose, qu'il y ait un accompagnement spécifique de l'étudiant. Ça, la ministre y tient beaucoup. Donc, qu'il y ait une pédagogie adaptée, qu'il y ait un cadre. Les publics qui sont accueillis dans ces formations-là sont souvent des publics différents de ceux qui sont comme des poissons dans l'eau dans la formation adossée à la recherche. C'est d'autres publics. Et donc, il faut une autre pédagogie, un autre type d'accompagnement vers la réussite. Troisième chose qui se dégage, et là, je sors un peu de mon seul regard sur la formation et je vais vers l'établissement. Vérifier que l'établissement, je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas comment le dire autrement, a une politique de formation, a une instance, alors je ne vais pas parler de CFVU pour pas effrayer nos amis des écoles, mais a une instance de réflexion sur ce que doivent être les formations. Un process qualité qui permette d'ajuster ces formations.
Comme un conseil de perfectionnement.
Voilà. Tout ça est à discuter, encore une fois. Mais on regarde ce qui se passe, on regarde s'il y a bien une bonne gouvernance de ce sujet formation au sein de l'établissement et qui irrigue toutes les formations de l'établissement. Voilà. On a aussi beaucoup parlé de transparence de l'établissement et notamment des droits d'inscription. Pouvoir dire aux jeunes, dès le départ, quels sont les droits d'inscription. Voilà ce dont on discute. Encore une fois, je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, ne me faites pas dire que c'est l'arbitrage de la ministre, ce n'est pas le cas. On attend les arbitrages parce que les discussions sont encore en cours. Mais je vous livre ce que j'entends, ce qu'on entend avec mes équipes quand on rencontre les parties prenantes. Sur le sujet qui évalue. Alors là, je crois que ça va vous rassurer, enfin, en tout cas tout le monde est assez cohérent. Et ça rejoint ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut une évaluation exigeante, mais pas une usine à gaz, Voilà, si je le dis comme ça. Mais il faut que ce soit sérieux quand même. Donc on est sur cette... voilà. Alors là, tout est sur la table. Évidemment, où que soit... Je vais parler de commission pour prendre un terme que j'espère neutre. Quelle que soit l'équipe, je vais dire équipe, quelle que soit l'équipe des évaluateurs et des évaluatrices, évidemment, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui évaluent la licence. Il faut évidemment des professionnels, bien sûr. Il faut peut-être, là aussi, tout ça est sur la table. Est-ce que on fait ça avec le ministère du Travail? Pourquoi pas? Est-ce qu'on fait ça tout seul? Est-ce que voilà, mais bien entendu, une équipe d'évaluateurs conçue, imaginée pour ce type de formation. Où sera cette équipe? Je n'en sais rien. Là aussi, alors là, pour le, là, c'est assez divers dans ce que j'entends dans les concertations. Voilà, voilà. Bon, bref, c'est assez divers. Mais en tout cas, nous, notre... Et moi, ça m'est un peu égal. Enfin, ça m'est égal à partir du moment où ça reste agile. Parce que ces formations professionnalisantes-là, elles ont une exigence de réactivité, d'adaptabilité à ce qui se passe sur le marché du travail, peut-être plus forte qu'ailleurs. Et donc, elles ne peuvent pas, je force le trait, attendre 2 ans de savoir si les évaluateurs disent oui ou non. Évidemment, ça n'a aucun sens pour ces formations-là. Donc, il faut trouver la bonne manière de faire. Et enfin, troisième question, quelles sont les conséquences attachées à ce label? Label, enfin bref, je ne me lance pas là-dessus. Quelles sont les conséquences qui sont attachées à ce label? Là, je vais le poser sous forme de question affirmation, en tout cas intuition. Est-ce qu'une école qui bénéficie de ce label doit être sur Parcoursup? Alors là, j'ai des avis un peu divergents dans mes discussions. Nous, il nous semble que oui. C'est plutôt ce qu'on a quand même envie de dire. On ne peut pas à la fois avoir un label du MESR et être complètement en dehors des clous en termes de recrutement. J'entends aussi ce que me disent les écoles. Les écoles disent, on recrute très différemment, je ne sais pas comment on va faire, on a des spécificités, des difficultés et un modèle économique qu'il faut tenir, et donc on ne peut pas savoir le 3 septembre combien j'ai de gars et de filles dans ma classe. Non, il faut que je puisse anticiper. Est-ce que Parcoursup me permet ça? Oui, non, si oui, pourquoi pas? Mais j'y vais pas les yeux fermés. Je vous donne vraiment les discussions que l'on a. Et j'entends évidemment complètement ça aussi. Mais c'est vrai que donc, Parcoursup. Deuxième question, les taux d'insertion professionnelle. C'est un sujet délicieux du moment. Il est très important, enfin c'est pas, là je peux presque dire, enfin, il est très important que toute formation qui bénéficie du label affiche un taux d'insertion professionnelle qui est calculé de la même manière. Insersup est en train d'être déployé avec encore un périmètre qui n'est pas suffisamment large, etc. Mais il faut qu'une école ait des taux d'insertion professionnelle qui soient calculés de la même manière que ce qui se passe à l'université. Ce n'est pas possible autrement. Complémentarité et là, pas distorsion de concurrence. Mais la question se pose. Quelles conséquences aussi, là je le laisse avec un point d'interrogation, sur la possibilité d'allouer des bourses sur critères sociaux, si on a un label? Quelles conséquences aussi sur les sujets de mobilité internationale? Parce qu'on voit aussi que le sujet est compliqué, les écoles nous l'expliquent, elles ont raison de nous l'expliquer. Est-ce que, quand il y a un label, ça a des conséquences sur les questions d'accueil d'étudiants internationaux? Point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai mis encore? En termes d'apprentissage aussi, d'accès à l'apprentissage. Question, je le redis, c'est une question. Est-ce que le fait de bénéficier de ce label, qui est un label qualité supplémentaire, pardon, mais c'est vrai qu'il est supplémentaire, et il faut quand même qu'il y ait une garotte à la fin, parce que sinon c'est que les emmerdements. Donc, est-ce que ça fait bouger les choses dans le bon sens du terme, dans l'accès à l'apprentissage? Point d'interrogation là aussi. Voilà les questions que l'on discute. J'ajoute que pour moi, quand même, donc ça, ce sont des conséquences qu'on se pose. En tout cas, il y a une conséquence à coup sûr, c'est que si on y arrive, si on crée ce label, si etc., etc., on va en faire une pub de dingue. Enfin, n'écrivez pas ça comme ça, parce qu'après, j'ai toujours des titres, moi, de dépêche. On va en faire une communication remarquable. On va en faire une communication remarquable et remarquée par les jeunes et leurs familles. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand il y aura le label, on sera capable automatiquement de lire dessous ce que ça signifie, en un clic de souris sur le label peut-être, avec 3 bullet points qui dit très simplement et clairement ce qu'il y a derrière et ce qu'il n'y a pas d'ailleurs derrière. Même chose pour le grade. Et moi, j'ai envie de dire, même chose pour un diplôme national. Qui sait aujourd'hui ce qu'il y a derrière une licence? Nous, on le sait. Mais parmi les jeunes, est-ce qu'ils savent ce que ça signifie, une formation adossée à la recherche? Est-ce qu'ils savent ce que ça leur apporte? Alors évidemment, si on écrit adossée à la recherche, on perd la moitié des candidats. Mais il faut qu'on arrive... Pardon, hein, ça aussi, n'écrivez pas comme ça. Et il faut qu'on soit capable...
Il faut leur laisser écrire quelque chose.
Ouais, vous trouverez les mots. Non, mais après, moi, j'ai des ennuis, et ça ralentit le dossier. Non, mais il faut trouver un moyen de... dans le bon sens du terme, bien vendre cet adossement à la recherche. Alors, j'ai eu ces discussions, etc. Et d'ailleurs, la FESIG nous avait aussi donné pas mal d'idées. Enfin bref, on a des choses à faire. Et on a des choses surtout à dire, à communiquer de manière simple, pas dans notre jargon habituel. Et de manière peut-être un peu rapide et réductrice, un peu grossière, mais tant pis. Il faut bien que chaque jeune sache ce que recouvre cette garantie donnée par le ministère du Travail, cette garantie donnée par le MESR, s'il n'y a que nous qui la donnons. Voilà exactement où nous en sommes. Hein. Catherine est là avec moi et elle est là à chacun de mes rendez-vous. Voilà où nous en sommes. Je suis assez optimiste sur le fait de trouver un terrain de jeu et de solutions plutôt commun, vraiment. Il y a aussi une question, enfin pardon, j'oublie dans les critères, il y a la question du distanciel. La part du distanciel dans la formation. Bon, là aussi, il y a quand même peut-être quelque chose à dire et à cadrer. Bon, mais enfin, vous voyez, tout ça est sur la table. Pour l'instant, on voit, Catherine et moi et mes équipes, et Marc Foucault, hein, parce que l'IG est aussi à la tête de ce groupe de discussion, on voit chacun en bilatéral. Maintenant, alors je le disais la semaine dernière à mes équipes, mais puisque Valérie l'a déjà fait, je sais que maintenant je peux le faire. Je pense que maintenant, il faut qu'on fasse des réunions. Il y a tous les acteurs autour de la table. Voilà. Parce que maintenant que je les ai entendus en bilatéral, ça va, il n'y a pas de doudingue dans l'affaire. Hein, voilà. Je pense qu'on peut trouver un terrain de discussion commun, vraiment.
Ça aussi, il ne faut pas l'écrire comme ça.
Non, ça non plus.
Non, je me permets de...
Non, c'est gentil, Hélène.
Je t'en prie.
C'est gentil. Mais j'ai du mal à parler autrement. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous dire.
Moi, j'ai une précision dans ce qui a été dit. Par exemple, une école qui s'ouvre, parce qu'il y a celle qui existe, et il y a celle. Est-ce qu'il lui faudra un agrément pour ouvrir avec ce label?
Alors là, vous posez deux questions différentes. Il y a la question
comme
des
on a évoqué le problème
d'ouverture.
Du marché ce matin, ouais. Il y a des créneaux qui peuvent s'ouvrir, des écoles qui vont se créer, etc.
Il y a deux sujets. Il y a le sujet des conditions d'ouverture d'une école privée, qui est un sujet à part entière, que l'école fasse quoi qu'elle fasse, qui est un sujet à part entière. Il faut peut-être re-regarder ces conditions d'ouverture. Là aussi, c'est un point d'interrogation. Il y a ensuite la question du label pour une formation qui débute. Bon, j'ai absolument pas la réponse. C'est une question qui se pose. Enfin, voilà, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Intuitivement, je me dis qu'il faut peut-être pas attendre quand même qu'elle ait fait ses preuves pendant 3, 4, 5 ans pour commencer à donner quand même sa chance à la formation. Mais il faut que... C'est peut-être pas la même chose que l'on... Enfin, même à coup sûr, ce que l'on regardera si la formation existe déjà, si elle se lance. Je sais pas. C'est une vraie question.
Le Julien Jacquemin, qui était le chercheur qui était présent à la table ronde, qui vient de nous quitter, il a évoqué le système américain où, pour toute une série d'opérateurs privés, il y a un audit préalable qui est à la charge de l'établissement.
À la charge financièrement.
Ouais.
Oui, ça j'ai oublié de le dire. Oui, les écoles payent. Ça, j'aurais dû le dire. Oui, pardon. Oui. De toute façon, nous n'avons pas... Non, mais pardon. Il y a un modèle économique à trouver. Dans la recherche de ce modèle économique, il ne serait pas absurde de poser la question de la contribution des écoles.
C'est bien, Hélène.
C'est parti. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je
oui.
Mais
oui.
La CEFDG, ECUIS, bien sûr. Laurent.
À Lyon, la même chose à Lille, etc. Donc, est-ce qu'on évalue une évalue la marque, et donc on va se promener sur tous les sites pour vérifier qu'il y a un corps enseignant pour la marque, etc. Est-ce qu'on évalue le site et on va voir.
Non, c'est une question évidemment qu'on a à l'esprit pour deux raisons. La première, c'est la faisabilité de ces labellisations. Si on a 4000 candidats, je ne sais pas comment cette équipe d'évaluateurs pourra faire. Et puis ensuite, on se pose aussi la question, une chose est sûre, on ne labellisera pas, et d'ailleurs les groupes ne le demandent pas, un groupe. Voilà. Après, reste la question, est-ce qu'on labellise l'école, est-ce qu'on labellise la formation? Ça reste ouvert. Voilà, je vois bien le pour et le contre des deux. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que maintenant que on a quand même pas mal avancé, il faut qu'on prenne ces sujets-là très concrètement, un par un, et qu'on se lance.
Il y a une filière d'avenir.
Comment ?
Il y a une filière d'avenir qui est en train d'émerger.
Ah bon ?
L'évaluation.
Ah, pardon. Ah non.
Oui,
alors
c'est vrai. Non, mais en termes d'ingénierie de l'évaluation, on sait que c'est déjà compliqué pour le HERS de faire l'ensemble du travail. Donc, on sait qu'en France, le diable est dans les détails.
Moi, je vais vous dire, je pense que si ces critères de labellisation sont, sans être irréalistes, évidemment, sont exigeants, et si les conséquences de ce label le sont aussi, notamment la présence sur Parcoursup, qui n'est pas naturelle pour beaucoup d'écoles. Je ne suis pas sûre que dès le départ, on croule sous... Enfin, je n'en sais, c'est évidemment un sujet. Qu'on croule sous les... Oui, il y aura des demandes. Par exemple, le grade licence, la CFDG est épuisée par l'exercice, évidemment, la CTI aussi, mais ça a pu être fait quand même, et à une échéance relativement raisonnable. Donc voilà, mais ça aussi, il faut que l'on en discute. Voilà, il faut que l'on en discute. Du périmètre, et il y a le... Enfin, pardon, je ne vais pas poser la question.
Est-ce que cette proposition, elle pourrait rencontrer celle du HCVRS sur lequel le plus...
Alors, moi, là encore, tout est sur la table. Est-ce que cette labellisation est donnée par le ministère du Travail et le MESR, simplement par le MESR, donc tout est sur la table. Est-ce que, et ce qui est sur la table également, c'est l'appellation. Est-ce que l'on se dit que l'on prend une appellation déjà connue, Calliope et plus, RNCP, plus, ou est-ce qu'on se dit que comme c'est vraiment complémentaire et qu'on ne regarde vraiment pas la même chose, même s'il faut organiser la complémentarité, on se trouve notre petit nom à nous. Ça reste, voilà. Moi, la question, mais c'est tout à fait la question que je me pose avec Calliope+, c'est que je trouve, que, dans l'imaginaire, en tout cas, que Calliope renvoie vraiment, enfin en tout cas, à la formation professionnelle. Et que je ne sais pas si ça apporterait de la lisibilité d'utiliser cette appellation. De toute façon, ce n'est pas moi qui déciderai, enfin ça c'est de manière générale, mais on va former, on va constituer un comité d'usagers. Un comité avec finalement les gens pour qui on bosse. Les jeunes et leurs familles. Voilà. Est-ce que Calliope, ça, vous comprenez quelque chose à Calliope? Si oui, ça vous renvoie à quoi? Est-ce que, enfin voilà, on va tester ça.
Ça c'est bien.
J'ai une question complémentaire. On parlait tout à l'heure de vérifier également qu'il existe un marché. Parce qu'on peut parler d'une formation pour un établissement. Si on prend un bachelor professionnalisant par exemple en informatique, il y a des territoires où aujourd'hui ça va répondre à un besoin, puis il y a des territoires où finalement le besoin risque de déstabiliser d'autres établissements qui ont été certifiés. Donc est-ce qu'il y aurait la possibilité également d'analyser la demande au regard du territoire et de son besoin? Dans ce cas-là, un des opérateurs par exemple qui pourrait participer à l'évaluation pourrait être l'université locale.
Je préfère ne pas dire ce que j'en pense. Non, j'ai trop peur de répondre.
Je retire ma question.
Non, mais bon, enfin bref. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'on pense. Enfin, bref, non, je ne préfère pas répondre. Mais en tout cas, c'est un système qui existe déjà, en quelque sorte, pour certains établissements privés qui opèrent des diplômes nationaux. Délivré par une université. Donc dans ce cas-là, l'université, les cathos. Oui, je sais que c'est pas ce à quoi vous pensiez, mais dans les établissements cathos, enfin, comment on appelle ça, Les instituts catholiques. Oui, j'ai pas d'université au moins, non.
Non, non, non. Les mais instituts sinon, catholiques. Il faut pas l'écrire comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Et qu'on les appelle les libres, pardon, les établissements privés libres. Ceux-là, ils ne peuvent pas délivrer de diplômes nationaux, donc ils vont voir Hélène et ils disent, voilà Hélène, regarde-moi ce que je te propose d'opérer, un diplôme national de droit philo. Regarde si c'est sérieux. Tu le délivres à la fin, si tu es convaincu de la qualité. Et c'est moi qui l'opère. Donc on a un système où là, l'université, voilà, est, en quelque sorte, est dans le processus d'évaluation. Voilà. Je ne sais pas si ça marche extrêmement bien. Voilà. Mais cela dit, bon, enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, Gérard, tout à l'heure. Le sujet de l'enseignement privé, il est bien plus large que celui du label. J'ai avec Catherine depuis 6 ans une liste qui est la liste qui figure dans le rapport IG de 2015 sur le sujet. Il est public ce rapport ? Ah, il est public, franchement. Ah, pardon, merci. Ah, il a été cité. Bon, tout est là-dedans, hein, enfin, franchement. Donc, on a une liste de 10 sujets qu'il va falloir qu'on scoltine un jour. L'incohérence des textes, on ne comprend rien. Et quand enfin on comprend, on voit que ça n'a aucun sens. Etc. Bon, donc il y a plein de sujets. Là, nous, on s'attaque au sujet de ce trou dans la raquette d'illisibilité, mais évidemment, on souhaiterait, on espère pouvoir aller plus loin.
Alors, je vais poser une question un peu iconoclaste, mais bon, pour la lisibilité, est-ce qu'il ne faut pas définitivement appeler tout bachelor ?
Pour moi, enfin, je dirais que le...
Exit la licence.
Ah oui, pardon. Ah oui, sans la licence. Ah oui, tout ce qui est post-bac, enfin, tout ce qui est premier cycle, pardon, oui, premier cycle. Moi, je
sais pas, ça m'est venu dans la discussion.
Ouais, je sais pas. Moi, je pense quand même que il faut. Moi, je trouve que la distinction entre un diplôme national et un diplôme d'établissement, elle est très importante.
Mais pour les familles.
Oui, mais si je ne sais pas, je ne sais pas.
Enfin, on voit quand même ce qu'on disait tout à l'heure, comment l'université arrive à démontrer ce qu'elle est, ce qu'elle propose, etc. Et la licence, jusqu'à preuve du contraire, ça reste quand même quelque chose qui reste.
Oui, avec la question de l'étiquette et la question de la marque hein, derrière. Hein. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Porsche et Dacia, mais moi je trouve ça assez parlant. Dans les deux cas, on est en train de parler d'une voiture.
Mais Dacia, ça va mieux.
C'est beaucoup. Enfin, non, pas vraiment. C'était pas ce qu'on disait.
Ah bon
en fait, c'était le.
Non, j'aime bien les voitures. Je croyais que Dacia, c'était. Oui, bah,
c'est surtout moi, ça.
Ouais, mais
c'est pas moi qui ai donné l'exemple en première instance, parce que sinon on serait parti sur des marques de vélo, mais c'est beaucoup moins parlant pour le grand public. Donc voilà. Mais il y a bien à la fois la question de l'étiquette, le nom qu'on utilise, hein, qui pour moi veut dire quelque chose et ouais, doit être préservé, mais il y a aussi la marque qui porte ce nom. Hein.
Et évidemment, tu as raison. Et l'explication, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de ce qu'est un diplôme national, et en ce qui concerne les nôtres, sont des diplômes qui sont adossés à la recherche. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que va trouver un jeune s'il s'inscrit dans une licence, qui ne trouvera pas dans un bachelor avec le nouveau label professionnalisant, et c'est pas grave, et inversement, évidemment. Mais comment on met en avant ça ? C'est pour ça que je n'appellerai pas tout bachelor. Enfin, voilà, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Mais le sujet de la valorisation des diplômes portés par les universités est un sujet. Et il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Ce que font les universités, c'est évidemment remarquable. Je dis pas ça, enfin voilà, c'est remarquable. La manière dont les DUT se sont transformés en bachelor universitaire de technologie, c'est remarquable.
Justement, si ça marche, le bachelor universitaire de technologie...
Mais ça ne marche pas parce que ça s'appelle bachelor. Ça marche parce que les IUT ont fait un boulot remarquable. Il faut le dire. Et ils ont pu faire ce boulot remarquable parce que les présidences d'université les ont accompagnés, ont compris l'intérêt de transformer une offre de formation en bloc de compétences, de mettre davantage de mise en situation professionnelle, d'enfin accueillir les publics qui visent au départ, c'est-à-dire les bacheliers technologiques, non seulement de les accueillir, mais de revoir la pédagogie pour qu'ils y réussissent, etc., etc., et avec une insertion professionnelle à clé. Franchement, cette transformation de diplôme faite par les universités, là, pour le coup, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Donc il faut à la fois, évidemment, bosser pour les diplômes d'établissement, d'ailleurs qu'ils soient universitaires ou d'école, les mettre en lisibilité, mais tout autant mettre en lisibilité et visibilité ce qu'il y a de formidable en termes de formation qui se passe dans les universités.
Question ?
Oui, bonjour. Frédéric Després, DGS INSA Lyon, école publique. Non, je me permets cette question, parce que depuis ce matin, j'ai l'impression qu'on parle d'université forcément publique et école forcément privée.
Oui, pardon. Quand je dis université, en plus, j'englobe. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison.
Depuis tout à l'heure, on parle de distinction sur la valeur académique des formations entre ce qui est dispensé dans la sphère publique du privé, notamment son adossement à la recherche, qui est évidemment une des caractéristiques. Si on se place du côté des familles, je pense qu'il y a une problématique de la valeur économique de ce que nous proposons. Qu'on le veuille ou non, nous on le sait parce que nous sommes des initiés, les gens qui ont, on l'a expliqué ce matin, qui ont une certaine culture, plus les CSP sont élevés, plus bien évidemment ils ont ces codes et ces clés d'entrée. Si on descend, il y a quand même au niveau des familles, il peut y avoir, je ne répète caricatural, mais un raisonnement un peu basique. Si on reprend l'exemple de la voiture, on se doute que si on achète une voiture 10 000 euros et une voiture 35 000 euros, même si ce n'est pas le prix d'une Porsche, on n'aura pas forcément la même qualité. Dans l'esprit d'un certain nombre de familles, pour en discuter avec les proches, etc., quand vous pensez à l'avenir de votre enfant, vous êtes prêt à faire des sacrifices énormes pour que cet enfant puisse s'insérer convenablement dans le monde économique. Qu'on le veuille ou non, quelque chose qui coûte quelques centaines d'euros, quelque chose qui coûte des milliers d'euros, dans l'esprit des personnes, il y a un problème de qualité. Et on peut aller vers ce qui coûte le plus cher, parce que ça donne l'illusion que ça sera de meilleure qualité. Donc pour valoriser nos formations d'enseignement de supérieur public, je ne suis pas en train de dire, même s'il y a une question des droits d'inscription, je ne vais même pas sur ce terrain-là, même si le débat mérite d'être posé, et pas simplement de façon caricaturale, les formations sélectives versus les autres, il y a un débat là-dessus. Si simplement nous étions en capacité, je pense que maintenant les établissements ont la maturité pour le faire, d'afficher très clairement que pour une entreprise, si vous payez, vous allez vers un opérateur privé, vous allez payer 12 000 euros, ce n'est pas la valeur, parce qu'il y a forcément une marge qui est réalisée. Là où parfois ce que nous dispensons a un coût complet, bien plus élevé
que ce
qui va être facturé.
Bien sûr, c'est ça qu'il faut publier.
Si nous étions en capacité de dire, si je prends un exemple de mon établissement, que la famille va payer 600 et quelques, que dans la réalité, une année de formation, on est plutôt entre 12 et 15 000,
bien sûr,
que nous étions capables de l'afficher, et s'il y avait une obligation d'affichage de la valeur de ce qui est vendu, y compris par les opérateurs privés, je pense que ça rééquilibrerait les choses. Pourquoi nos formations sont par définition, bien évidemment, elles ne coûtent pas ce que l'on facture, si vous me permettez cette expression, aux familles, parce que derrière, il y a la qualité des intervenants, parce que évidemment, un enseignant-chercheur
ça coûte cher,
a une valeur, donc il y a la qualité des intervenants, il y a la qualité, qu'on le veuille ou non, là aussi on entend bien des équipements qui sont mis à disposition, parce que la formation qui est adossée à la recherche, ce n'est pas simplement l'enseignant-chercheur qui fait la passerelle, c'est aussi des équipements. Moi, je le mets dans mes établissements, c'est la réalité d'un certain nombre d'entre nous, que les plateformes scientifiques, elles servent aussi en tant que plateforme pédagogique. Et derrière, ça permettrait aussi de valoriser quelque chose, d'expliquer aux gens pourquoi ils payent des impôts. Donc, ça aurait aussi une autre vérité. Je pense que la chose économique ne doit pas être un tabou. Je ne vais même pas sur les droits d'inscription, mais affichons. Certes, vous allez payer les 600 et quelques, mais la valeur de ce que va bénéficier votre enfant, c'est 10, 11, 12, 15 000 et même au-delà. C'est vrai pour les formations, bien évidemment, technologiques, médicales ou autres. Et ça, ça me semble absolument indispensable si on veut rétablir un équilibre et quelque part ne pas être simplement sur des choix qui parfois sont d'ordre psychologique.
Merci beaucoup.
Pour aller dans votre sens, il y a eu un article, alors je ne sais pas quand, qui comparait les diplômés de Dauphine à ceux de HEC. Et qui montrait que c'était plus rentable d'être à Dauphine, y compris en termes de gains salariales sur toute la vie par rapport au coût des études.
Ah bon?
Bien sûr.
Enfin bon, oui, c'est pas étonnant, mais je savais pas que ça avait été publié.
Ça a été, ah ouais. En fait, je retrouve.
Je voudrais
Non, mais c'est évident, mais...
La question voilà. De l'excellent Pizza de Lyon, qui est à côté de nous aussi,
sur ce site.
Ce ne sont que dans les établissements lucratifs qu'il y a une marge. N'oubliez pas que dans les établissements privés, il y a tout un ensemble d'établissements privés non lucratifs, dont par exemple ceux de la physique, et la physique fait 40% des établissements, dans lesquels il n'y a pas de marge. Nous ne faisons pas de marge sur les frais de scolarité. Tout l'argent qui est injecté dans nos écoles reste dans les écoles pour recruter, installer des plateformes et tout ce que vous disiez comme étant un point très important de la qualité d'une formation. Donc, il faut faire une marge. Alors, j'ai eu un petit accrochage là ce matin avec eux. Enfin, on peut ne pas remonter le dividende et être néanmoins lucratif.
C'est bien pour ça qu'on parle tous de la même chose du coût de la formation. Quel que soit
c'est vrai,
de la marge,
c'est vrai.
Donc moi, comparons des choses qui sont comparables avec et la valeur économique me semble l'euro est le même pour tout le monde.
Mais ça pose quand même la question aussi de la grandeur de notre service public. Je rejoins complètement ce que tu dis. On a ce débat, nous, à l'université, puisqu'on a une école management interne, où il y a un grand débat sur l'augmentation ou non des droits d'inscription. Et là, toujours le débat, c'est si on doit augmenter pour faire pareil que les autres écoles de commerce. Et ce qu'on ne met pas derrière, c'est effectivement le coût complet de l'offre de formation qui montre que cette école, elle est excellente. Sa formation est adossée à la recherche. Elle a les 3 étoiles au label EQUIS, etc. Et donc, on ne pose pas... le débat de la bonne manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter les droits d'inscription, parce que ça donnerait un peu plus de marge de fonctionnement à l'école pour investir, pour améliorer les conditions d'études de ses étudiants, etc. Mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est qu'on doit être fier d'avoir une école interne de service public qui, en termes de positionnement à l'international et sur le territoire national, fait aussi bien que l'école privée d'à côté, schéma ou autre. Donc ça, on a quand même un problème, je pense, dans l'enseignement supérieur, à ne pas, pas assurer avec fierté la qualité, la qualité de nos formations. Non, mais là, je ne pose pas la question du non lucratif et du lucratif, je pose la question du privé public.
Hélène Boulanger.
Oui, si je peux me permettre une petite provocation supplémentaire, parce que c'est l'après-midi. Il y a le modèle payant qui affiche des coûts auxquels on associe une valeur symbolique de qualité. Hein, c'est l'histoire de la Porsche tout à l'heure. Il y a le modèle totalement gratuit, c'est-à-dire 0 euro, zéro de chez zéro. Et il y a le modèle qu'on utilise en France, qui est un modèle de... Je ne suis pas en train de dire qu'on peut se passer des recettes des droits d'inscription dans les universités, hein, soyons clairs, mais quand même. Et il y a le modèle qu'on utilise en France, qui est celui d'un modèle de droit administratif qui s'apparente à du low cost, en fait. Hein. Et je trouve que la proposition qui est faite, parce que je ne peux pas me passer des recettes des droits d'inscription... La proposition que vous avez faite tout à l'heure, elle est très... Enfin, pour ma part, je ne l'avais jamais envisagée sous cet angle-là, mais pour réaffirmer effectivement ce qui est pris en charge par la dette collective, puisque là, la question, c'est celle du financement des études supérieures, soit par la dette individuelle, soit par la dette collective. Donc, réafficher ou afficher de manière beaucoup plus efficace et visible ce qui est pris en charge par la dette collective dans la formation des étudiants.
Et il faudra trouver une définition commune du coût complet.
Oui.
C'est pas simple. Non, mais.
Je sais bien. Les universités sont en capacité quand
je
même.
Je sais, oui. Non, mais si tout le monde prend notre définition, ça va. Non, non, mais je rigole. Parce qu'après, on voit bien. C'est le... Bon, bref, non, mais c'était. Mais sinon, je suis d'accord. Oui, tout à fait.
C'est 3 000 euros et du coup, les gens disent, mon Dieu, c'est devenu hors des prix. C'est de dire, non, ça coûte 10 000 euros et finalement, et on nous fait une...
Oui, pédagogiquement, là aussi, c'est...
C'est une autre façon de faire les choses, y compris pour attirer les étudiants internationaux. Je pense que c'est là-dessus, il y a des choses à...
tout à fait d'accord.
Mais Anne-Sophie Barthès, quel est l'obstacle en fait à cette présentation en coût complet? Enfin, moi j'en entends parler depuis, je ne vais pas dire des décennies, n'exagérons pas, mais depuis quand même longtemps, quoi. Et on a l'impression que ce débat revient sans arrêt. Et
ah oui, moi je ne l'ai pas entendu, enfin je l'ai pas entendu tant que ça. Non, il n'y a rien qui se, il n'y a rien qui s'y oppose. Alors, en plus, le ministère a lancé une démarche d'accompagnement des établissements pour que ils sachent exactement, ils connaissent exactement le coût complet de chaque formation. Alors c'était davantage dans le
dans les comp.
Qu'est-ce que c'est que ce petit rire après comp? Bon, je le prends pas pour moi. non, justement pas du tout. C'était depuis longtemps et c'est pour aider les établissements à piloter leur offre de formation et à faire des choix. Bon, peu importe. Mais c'est vrai que donc il y a rien qui s'y oppose réglementairement, évidemment. Il faudrait trouver la bonne formule, parce que si on écrit coût de la formation ou coût complet de la formation, beaucoup liront droit d'inscription. Enfin bref, mais c'est pas une raison pour pas le faire, évidemment.
Valeur de la formation, comme ça a été proposé.
Ouais, ou valeur, ouais. Mais bien sûr, non, mais ça c'est quelque chose qu'on peut. Oui, ah oui, alors là, oui, évidemment, là on a les experts. Valeur et coût, c'est pas la même chose. Ah bah là, il est éclairé, le jeune.
C'est un coup.
Bon, je... vous trouvez la solution.
Mais... Investissement public dans votre formation. Je trouve que ça parlerait.
Oui, mais c'est vrai.
Ça parlerait.
Oui, c'est vrai.
Oui. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, il y a un DGS de l'Université de Bourgogne. Moi, il y a un point dont on n'a pas parlé ce matin, c'est la vie étudiante, c'est un élément de valorisation en fait, des formations qui accompagne une formation, qui accompagne l'établissement.
Vous avez raison. Enfin, évidemment, la vie étudiante est un facteur de réussite, d'épanouissement, etc., etc. La difficulté, pour avoir beaucoup discuté avec les acteurs, etc., si j'additionne chacune des très bonnes idées, hein, qui m'ont été soumises, j'en suis, je crois, à 72 critères. Non, c'est vrai. Et cela dit, la vie étudiante n'a jamais été, citée. C'est enfin 73e. Non, je dis ça. Moi, je vais vous dire, si je saucissonne les sujets, c'est-à-dire si je me pose la question de chaque critère, évidemment que c'est important et intéressant à regarder, que ça dit quelque chose. Mais attention à ne pas avoir trop en avoir. Moi, j'ai envie que ce groupe de travail que l'on conduit, ils mettent sur la table 5-6 grandes familles de choses à regarder. Et qu'ensuite, l'équipe d'évaluateurs, ou quel qu'il soit, il regarde ce que signifie l'accompagnement de l'étudiant. Voilà, dans la famille accompagnement de l'étudiant, est-ce qu'on regarde la vie étudiante? On peut laisser ça un peu plus tard. Mais il faut faire attention à ne pas... je ne veux pas que vous pensiez que votre idée n'est pas bonne. Elle est très bonne, mais comme 72 autres. Mais je la note. Ah oui. Pardon, j'aurais dû le dire, c'est formation initiale, hein, oui. Ce dont je parle.
Ah, c'est pas
formation... Ah non. Pardon, oui, j'ai oublié. Oui, c'est sur la formation initiale. Mais ce que vous dites est très juste, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on travaille avec le ministère du Travail. Quelle que soit la personne qui met le coup de tampon à la fin, il faut qu'on regarde des choses différentes. Bien sûr, différentes et complémentaires.
Ce qui est problématique dans nos universités, c'est gouvernance et de pilotage maintenant de l'offre de formation, oui. Il y a une différence entre la formation initiale, quand on l'amène au CBU, quand on l'amène au CA par exemple, quand on parle du règlement intérieur de l'apprentissage, quand il a fallu présenter au CA, c'est pas du tout le même prix que la formation initiale.
Non, là c'est formation initiale. En tout cas, nous ce sur quoi, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire sur la formation professionnelle, enfin, on continue, mais nous, là c'est la formation initiale.
Une question quand même, on parle du ministère du Travail. Mm-hmm. L'état des relations avec le ministère du Travail concrètement, il y a des divergences, je ne parle pas de polémique stérile, mais de logique qui rendent pessimiste ou optimiste?
Non, les discussions se passent extrêmement bien avec le ministère du Travail. Non, il n'y a pas de... Là aussi, il y a une complémentarité.
Je pense qu'ils ont leur logique. Enfin...
Exactement. Ce qu'on regarde... Là aussi, je force le trait en disant ça. Non, d'ailleurs, je ne vais pas le dire, parce que là encore, ça... c'est dur de... Enfin, sincèrement, les discussions se passent très bien avec le ministère du Travail, avec France Compétences. Hein, on poursuit les discussions aussi pour justement ne pas faire doublon et organiser cette complémentarité. Voilà, donc...
Pas d'obstacle majeur.
Non, pas du tout. Non, ils ne nous ont pas du tout dit dès le départ, mais pas question, ce sont nos plates-bandes, pas du tout. Ils voient bien l'intérêt de notre regard.
D'autres questions ? Moi, j'en ai plein, hein, mais je ne veux pas...
Choquette.
Voilà, Marie-Christine Corbier, des Échos. Je te présente, Marie-Christine.
Une question qui a été posée juste avant que vous arriviez, Sophie Barthes, par votre voisin gauche, qui venait de dire ce serait de bon ton que les universités soient les pilotes des formations sur le territoire. Et en vous entendant dire ça, j'avais dit qu'on ici de Rotaillot, vivant à Carcassonne devant la vue, ça ferait bien que les choses soient organisées autour des instances régionales, c'est-à-dire avec le modèle en tête. La région Nouvelle-Aquitaine. Quitte à ensuite l'inscrire dans la loi si on trouve un accord autour d'un modèle commun. Est-ce qu'il faut voir comme une sorte de début d'opposition entre ce que pourrait penser les universités d'un côté et le ministère et les régions de l'autre ou pas?
Je n'ai pas compris la dernière question.
Est-ce que c'est les universités qui doivent piloter leur commun?
Ah oui, d'accord, ça c'est votre question.
Ouais.
Non, moi la ministre estime évidemment, et je m'inscris complètement là-dedans, qu'il doit y avoir au niveau, là je vais dire de manière un peu vague, territoriale, il reste à trouver l'échelle du territoire, mais enfin territoriale, une instance, mettons instance, de concertation, de discussion, de cohérence de l'offre de formation sur ce territoire. Enfin, ça n'a aucun sens. On ne peut pas... Enfin, voilà, il faut que tous les acteurs soient autour de la table, sous l'égide, effectivement, de quelqu'un qui est en charge d'organiser cette concertation. Cela peut être évidemment les régions. C'est la piste évoquée par la ministre. On peut imaginer les rectorats aussi, de régions académiques. Enfin, il y a des tas de... On peut imaginer plusieurs choses. J'ai pas l'impression que la ministre souhaite. J'ai pas l'impression qu'elle souhaite aller vers cela. Mais je veux dire moi-même. Je pense que c'est mieux que ce soit un tiers qui regarde. Et je sais même pas si. Et puis il y a la question qui suit. Est-ce que cette instance-là est décisionnaire? Est-ce que elle. Alors, moi, ma conviction, c'est qu'elle a pas besoin de l'être pour que ça marche. Déjà, mettre autour de la table tous les acteurs et puis quelqu'un qui veut s'implanter, ben, il va devant cette instance, il présente et on organise intelligemment la complémentarité. Je pense qu'elle n'a même pas besoin d'être décisionnaire. Encore une fois, on se retrouve dans cette salle réunie comme jamais. Et dans la vraie vie, on est dans la vraie vie, mais dans l'autre vraie vie, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc, avoir un lieu où deux fois par an, on se réunit, tous les acteurs publics, privés, d'un même territoire, pourquoi pas la région? Alors là, évidemment, la région, il y a quelque chose à inventer, pour discuter, voir ce qui se passe, voir ce qui s'imagine, et à partir de ce qui s'imagine, voir comment on pourrait intelligemment le faire en complémentarité, etc. Je suis sûre que ça suffit.
Un
Pardon, il y avait une...
Jean-Luc Argentier, déjà de la commune, université de Lyon. Ah. Sans doute une provocation, est-ce que je pouvais dire que ça ne pourrait pas être le rôle de commune?
Mais...
le retour.
Et de la commune de Lyon, en plus, qui ne perd pas de son sel. Ça, pas
ça,
dans le truc,
pas
nulle part.
Comme
hein,
ça.
Non plus. Ah, si je peux pas faire des blagues. Non, mais en plus, c'est parce qu'on se connaît assez pour qu'on puisse... Voilà, ouais, je suis d'accord. Non, mais ce qui est, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut en rire. Donc, c'est pour ça que je... Voilà. Et en toute amitié, évidemment, je... Non.
Il y a des Lyonnais. Hein,
oui, il y a des Lyonnais. Non, mais je les connais bien. Bref. Alors, je ne sais pas si l'État... Comme il n'y a pas de commu partout, je ne pense pas que l'État pourrait dire c'est désormais le rôle... Je donne à la commu le rôle de... Mais... Une commu pourrait tout à fait, et d'ailleurs c'est beaucoup de communes, je me rappelle plus ce que fait sur ce sujet-là la commune Lyon, mais au départ, beaucoup de communes, même toutes, avaient dû avoir dans leur statut,
au départ, il y avait ça, quand même.
On va organiser la carte, enfin organiser, penser la carte de formation, etc.
C'est le projet initial.
Ouais.
Oui, parce que ça a été un échec.
Oui, ça a été, en tout cas... Oui, mais pourquoi aussi ? Est-ce que... Alors mince, la commune de Lyon, non, elle est quand même très diverse. Mais il y a des communes ou des regroupements dans lesquels on ne veut pas le privé.
Non, mais effectivement.
Et oui, non, mais c'est il y a des regroupements où on ne veut pas de privé. Parce que moi, je trouve que absurde.
C'est le seul lieu où tous les chefs d'établissement se réunissent.
Oui.
Tous les mardis matin,
oui.
Par semaine, ils travaillent sur des sujets d'être. Et c'est une commune dans laquelle plusieurs établissements d'enseignement supérieur
Eh oui. Ben voilà. Donc que soit la commune. Non, mais c'est vrai. Et ça marche. Alors que même si vous, votre président de commune, vous n'avez pas d'autorité sur ce. Enfin, pardon, je veux pas. Enfin, on est bien d'accord. Bon. Voilà, c'est pas vous qui êtes décisionnaire et qui dites. C'est pas vous qui dites oui ou non à l'établissement privé ou à l'université. Pas du tout. Mais le simple fait de se voir et de réunir les bonnes personnes, ça marche. Non, mais bien sûr. Oui, c'est ce que vous disiez. J'ai pas compris.
C'est pas les, c'est des.
Ah. Dans Lyon, c'est un régal, toujours. Mais oui.
C'est la fameuse biodiversité.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais et y compris en n'étant pas d'accord.
Une question très, très pratique. Il y a Julien Jacquemin, le chercheur de Neoma, qui est parti, mais qui soulevait cette question en disant s'il y a des évolutions sur les labels, sur la régulation, de toute façon, ça va prendre 5-6 ans. Or, les familles et les jeunes, ils sont confrontés à des choix dès maintenant. Il donnait ces exemples. Est-ce qu'il y a, par exemple, des consignes spécifiques qui sont données au rectorat poursuivre toutes ces écoles entre guillemets qui craignent hein, parce que c'est comme ça qu'on peut le résumer un peu vulgairement mais où il y a des soupçons d'escroqueries etc. Il y a eu, ça a défrayé la chronique mais ça existe toujours donc est-ce qu'il y a des mesures de court terme c'est un peu ça ma question en dehors des grandes réflexions sur la régulation.
Alors, je ne pense pas que ça prendra, si on y arrive, 5-6 ans. Ce ne sera pas pour la rentrée 2024. On peut essayer de viser une rentrée 2025 éclairée, donc des choses qu'on aura dites en amont, et puis sinon 2026, mais je ne pense pas que ça prenne autant de temps. Et il ne faut pas, d'ailleurs, parce que là, il faut profiter quand même d'un alignement de planètes sur ce sujet qu'on n'a pas eu depuis longtemps. J'ai oublié la question.
C'est des mesures
à court, à court terme, sur les rectorats.
Oui.
Non, bien sûr, les rectorats ont une vigilance particulière, mais pas exhaustive, malheureusement, toujours, de ce qui se passe dans les établissements et évidemment, alerte à chaque fois qu'il y a de la publicité mensongère, une appellation qui n'est pas légale. On a regardé ça avec Catherine Maligny la semaine dernière, avec des formations de droit qui se développent beaucoup dans le secteur privé. Voilà, qu'est-ce que promettent ces formations? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il est écrit master? Est-ce qu'il est écrit avec ma formation, vous pourrez devenir avocat? Donc oui, on regarde. On fait à la fois le mieux de ce que l'on peut faire, mais on ne sait pas tout. Mais bien sûr, il y a des consignes très fortes données au rectorat. Mais si ce label marche, si ce label existe, si ce label marche, si ce label devient, entre guillemets, the place to be, c'est-à-dire le label qu'il faut avoir, au fond, ça va quand même, et est connu, ben, au fond, ça va quand même se réguler.
Mais ma question portait sur le court terme.
Sur le court terme. Oui, pardon, c'est vrai.
Bien, mais Valérie Gibert me dit que c'est bon.
Je ne veux pas frustrer. Évidemment, les collègues, si vous avez encore des questions, je crois que c'était une journée extrêmement riche. Merci beaucoup, Madame Boulanger, M. Pandrine, Elide et Anne-Sophie. Merci beaucoup d'avoir participé à cet après-midi dans un espace un peu plus... entre nous, nous acteurs de l'enseignement supérieur, parce que ce matin on a voulu s'ouvrir effectivement très largement, et je crois que c'était important aussi de pouvoir interagir entre nous sur ces sujets-là qui nous intéressent fortement. Donc merci beaucoup à vous tous. La séance aura été enregistrée, donc les collègues ont pu voir à distance, et de toute façon on remettra le lien sur le site. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon retour. Restez bien en contact, parce qu'on va continuer à faire des webinaires. On n'a pas encore décidé de la thématique de notre prochain séminaire, mais on va bientôt décider de la thématique de notre prochain colloque. Donc je demande aux membres du conseil d'administration de ne pas s'échapper, parce que on doit tenir un CA maintenant.
Merci beaucoup.